7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bon réveil. Nous sommes le mercredi 28 novembre. Il a entendu, mais il n'a pas répondu, titre ce matin le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Un dialogue de sourds entre Macron et les Gilets jaunes pour Le Figaro. Les annonces faites par le président de la République hier n'ont pas fait mouche, apparemment. On en parle à 7h40 avec Jean-Michel Apathy. On viendra également en détail sur les mesures en faveur de la transition écologique. Est-ce que c'est une réponse suffisante face à la colère des Français et des Gilets jaunes? En tous les cas, l'idée d'une taxe essence flottante qui s'adapte au cours du baril pourrait bien être un piège. Attention, nous dira dans quelques instants Nicolas Barré. 7h15, direction Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, où nous sommes installés depuis lundi. On sera en direct ce matin d'un garage un peu spécial, un garage social, un système D qui marche parce qu'à Mourinx, la voiture et le travail sont indissociables. À 7h45, j'accueille dans notre studio l'une des artistes les plus écoutées au monde, la cantatrice américaine Barbara Hendricks. On parlera de son album de blues, mais aussi de l'actualité, Trump, la crise des migrants, ses engagements humanitaires. Barbara Hendricks, dans trois quarts d'heure, sur Europe 1. Brothers and sisters, bon réveil à tous sur Europe 1.
Et très bon début de journée à tous.
Je ne sais pas ce qui m'a pris.
C'était
plus fort
bien.
Que moi. C'est parce que je vois Hélène Zélani. Elle arrive pour le journal de 7h. A tout de suite.
Très bon réveil à tous en ce mercredi 28 novembre. Il est 7h. Bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Cette annonce inquiétante d'un chercheur chinois, il dit avoir modifié l'ADN de jumelles pour les rendre résistantes au sida. Ce seraient les premiers bébés génétiquement modifiés au monde, précision de Mélanie Gomez dès le début de ce journal. Les Gilets jaunes, pas convaincus par les annonces d'Emmanuel Macron, ils appellent à une nouvelle manifestation samedi sur les Champs-Élysées. Et puis près d'un quart des arrêts maladie prescrits ne sont pas respectés par les salariés du privé, proportion encore bien plus grande chez les cadres et les patrons.
Europe 1.
Jamais on n'avait vu autant de monde pour un colloque médical qui ne s'annonçait pas majeur. Il faut dire qu'un chercheur chinois a fait sensation en annonçant qu'il avait fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés de l'histoire. Il a pris la parole ce matin depuis Hong Kong, Mélanie Gomez. Il a vraiment procédé à cette manipulation de l'ADN?
Eh bien, si on s'en tient à sa présentation qui vient de se terminer il y a quelques minutes à Hong Kong, on va dire que oui. En tout cas, ce médecin chinois confirme bien avoir fait naître les deux premiers bébés génétiquement modifiés. Alors, devant une salle comble et une atmosphère très tendue, il a enchaîné les diapos pour préciser ses travaux. Il a expliqué qu'avec son équipe, il avait d'abord fait des tests sur des souris, des singes, avant de passer aux embryons humains. Il a donc expliqué avoir employé la technique CRISPR-Cas9, une sorte de ciseau génétique, sur deux embryons pour désactiver un gène précis qui pourrait leur conférer une résistance à l'infection par le VIH. Alors sur ce point, justement, on n'est pas encore certain que cela ait fonctionné. D'ailleurs, aucune certitude que ces jumelles soient vraiment protégées contre cette maladie. Alors de toute façon, maintenant, il faudra que la communauté scientifique vérifie plus précisément ses propos, sa méthodologie. Mais quoi qu'il en soit, les critiques sont toujours aussi vives d'un point de vue éthique pour beaucoup. Cette expérience qui semble donc avoir bien eu lieu est inadmissible. Avoir tenté de modifier le génome d'embryons sains au vu des risques connus et inconnus est irresponsable. On sait par exemple que ce genre de modification peut entraîner des altérations du génome non prévues. Donc ces jumelles pourraient avoir des problèmes de santé dont on n'a même pas encore idée. Elles, mais aussi leurs descendants, car ces modifications génétiques, ça c'est sûr, ces jumelles les transmettront désormais à leurs enfants et aux autres générations. Et justement, au vu du scepticisme de la communauté médicale, ce chercheur chinois vient d'annoncer qu'il mettait pour le moment ses travaux en pause.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Pas mal de monde ce matin qui nous entend et qui nous suit.
Il est 7h02.
Plus de doute, il y aura bien un acte 3 du mouvement des Gilets jaunes samedi.
Oui, deux de leurs porte-parole ont passé plus d'une heure dans le bureau du ministre de la Transition écologique François de Rugy hier soir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Priscilla Ludowski et Éric Drouet sont sortis déçus.
Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que non, il n'y a pas de réelle envie d'améliorer le sort des gens. C'est vraiment le profond sentiment qu'on a eu aujourd'hui.
Je pense qu'à un certain niveau de colère, ils se sont peut-être dit on va les recevoir. Ça arrive que trop tard. Et effectivement, ça ne s'arrête pas là, puisque ce n'était pas le bon ministère qui était concerné. Mais au moins, ça a permis d'ouvrir une porte.
Nous, on a exprimé le ressenti qu'on a par rapport aux sorties médiatiques du président, tout ça, et que les Français ne sont vraiment pas du tout convaincus, même pire. Ça commence à agacer justement tous les gilets jaunes qui sont sur le terrain. Du coup, on voulait en venir aussi là-dessus. Samedi prochain est maintenu et ça sera comme samedi dernier aux Champs-Élysées.
Deux porte-parole des Gilets jaunes au micro de Jihan Bergaoui. Ils veulent maintenant rencontrer le porte-parole du gouvernement ou le Premier ministre. Vous l'avez entendu, ils appellent à manifester samedi sur les Champs-Élysées, comme la semaine dernière. Emmanuel Macron, vous le savez, n'a pas renoncé à la hausse des taxes sur le carburant. Il a promis un mécanisme de fluctuation pour adapter la fiscalité au cours du pétrole. Il a aussi annoncé une large concertation dans les trois mois. Geste que certains Gilets jaunes balaient d'un revers de la main, mais d'autres sont plutôt ouverts, comme à Saint-Brieuc, où s'est rendu François Coulon.
Sur le rond-point de Brésilier, beaucoup de gilets jaunes arborent le bonnet rouge combatif. Macron nous enfume, dit la base. On veut une baisse des prix du carburant tout de suite avant de discuter. Mais les leaders ne refusent pas la main tendue de la concertation. Benoît Julou.
C'est super. Moi, je pense qu'il faudrait déjà qu'il y ait des volontaires inscrits en préfecture. Et puis, s'il y a 200 personnes, on en tire 30 au sort. Puis la concertation pourrait se faire de cette manière-là. Une sorte d'assemblée citoyenne. Il faut qu'on puisse faire des propositions pour que tout le monde puisse mieux vivre. Il faut que ce soit rapide parce que les gens, ils n'en peuvent plus.
Sous les cabanes de fortune, cahier de doléances, Tristan Lozac.
On a un cahier qui a été ouvert il y a déjà presque une semaine. Chaque personne note ici ses revendications. Là, il y en a 7. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut s'inscrire dans un dialogue. Sinon, ça va finir comment le mouvement ? 3 mois, ça peut permettre de tout résoudre. Déjà, nous, on ne demande pas être reçu par un ministre ou quoi que ce soit, mais on demandera être reçu directement par le président de la République. Et si on n'a pas les réponses souhaitées, on continuera le mouvement.
L'heure n'est pas au relâchement de la pression. On annonce ici une très grosse opération samedi à fort impact économique. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe.
Et puis sur l'île de la Réunion, un appel au blocage total est lancé pour aujourd'hui alors que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est attendue sur place dans les minutes qui viennent. Hier en fin de journée, 4 gros barrages en place depuis 10 jours avaient été démantelés après de violents affrontements avec les manifestants. La ministre promet d'aller à la rencontre des Gilets jaunes et de faire des annonces sur l'emploi et le coût de la vie.
Le fameux Jawad, qui a été la risée des réseaux sociaux, notamment après les attentats, revient au cœur de l'actualité.
Oui, surnommé le logeur de Daesh, Jawad Ben Daoud va être interrogé pour la première fois devant la cour d'appel de Paris. Il avait été acquitté en première instance. Qu'est-il devenu depuis ce premier procès, Salomé Legrand ?
Il n'a rien perdu de son potentiel éruptif. Tout en restant silencieux sur son banc la semaine dernière, Jawad Ben Daoud a manqué de se battre avec un photographe devant le tribunal dès le premier jour. Un comportement en yo-yo qui a marqué ces derniers mois. Passé de l'isolement total en prison à bête de foire, le jeune homme n'était bienvenu nulle part. Après une tentative de mise au vert chez son ex-compagne dans les Pyrénées-Orientales, il s'était même retrouvé chassé quand les habitants ont reconnu leur village à la télévision. Le dealer a l'interminable quasi judiciaire a fini par retourner grenouillé en Seine-Saint-Denis, à 2 pas du petit appartement qu'il avait loué aux terroristes. Logé chez ses parents, Jawad Ben Daoud a alterné les phases. Un coup euphorique, tenant grande conférence au café du coin ou empilant les selfies sur les réseaux sociaux. Un coup agressif, cherchant des noises à toutes ses connaissances ou sortant de chez lui avec un grand couteau. Il y a un mois, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour des violences sur sa compagne. Le jour de l'ouverture du procès, il a donné le ton, débarquant dans un jogging bling-bling à souhait, pailleté doré.
Les informations de Salomé Legrand pour Europe 1. Psychose sur le campus d'Orléans. 5 étudiantes agressées sexuellement en une semaine. Les patrouilles de police sont renforcées. L'administration lance un appel à la vigilance sur les réseaux sociaux. Il semble que toutes ces agressions aient été perpétrées par un seul homme. Et puis la justice ordonne le blocage d'un site internet d'extrême droite, raciste, antisémite et homophobe. Les juges des référés demandent aux 9 opérateurs d'interdire l'accès au site Démocratie Participative sous 15 jours, de manière définitive et illimitée. Hier encore, on pouvait lire en une des termes comme entreprise métèque, une députée négresse parlant à peine le français ou encore un gouvernement juif d'occupation.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec 23% des salariés du privé qui renoncent à leur arrêt maladie. Étude dévoilée ce matin sur Europe 1. Bon réveil à tous, vous avez le droit de sortir du lit, ça y est, on commence ensemble, c'est parti, juste après ça.
Europe 1.
Matinale Info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Ça vous est peut-être arrivé à vous aussi de renoncer à un arrêt maladie que le médecin vous avait prescrit. Ça arrive.
Oui, c'est même répandu comme attitude. Selon une étude sur l'absentéisme au travail publiée ce matin par l'assureur Malakoff Médéric, 23% des arrêts maladie ne sont pas respectés par les salariés. Chiffre en augmentation de 4 points par rapport à 2016. Les cadres et les dirigeants d'entreprise sont encore plus nombreux à choisir de ne pas s'arrêter. Écoutez ce reportage en région parisienne signé François Geffrier.
Au pied des gratte-ciels de bureaux à La Défense, près de Paris, on les trouve vite, ces salariés qui sont déjà allés travailler alors que leur médecin leur avait donné un arrêt maladie.
Oui, j'ai eu une angine et du coup j'étais arrêté 3 jours, mais je suis allé bosser quand même. Être à la maison à me morfondre tout seul, ça m'intéressait pas trop.
Je m'étais cassé 3 côtes, je suis retourné travailler, j'avais pas mal de tension. J'ai dû retourner aux urgences pour me faire arrêter une petite semaine.
Mais je suis venu une journée ouais, travailler alors que j'étais en arrêt. Ouais. Oui, j'aurais pas dû le faire, c'est dans ma tête, c'est la conscience professionnelle. Voilà.
Conscience professionnelle, peur d'être submergé au retour, mais aussi contraintes financières. Ceux qui ont une carence sur leur salaire les 3 premiers jours de l'arrêt maladie ont plus tendance à vite retourner travailler. Et chez les patrons, on est carrément à 1 sur 2 qui ne tient pas compte de son arrêt, comme Julien Leclerc, qui dirige l'agence de communication Comme Presse.
J'ai fait un trauma crânien, un entraînement de foot, et on m'a prescrit un arrêt maladie d'une semaine. Je me suis dit, je vais pas m'arrêter. Et donc j'ai repris le boulot dès le lundi, j'ai commencé à plus dormir, ce qui est très rare en ce qui me concerne. Je suis repassé à l'hôpital, je me suis vraiment arrêté une semaine un peu plus tard, et ça m'a fait vachement de bien.
Et comme lui, près de la moitié de ceux qui renoncent à leur arrêt maladie le regrettent ensuite, parce qu'ils font une rechute ou travaillent beaucoup moins efficacement.
François Geffrier.
Si vous êtes, baladé dans Paris, vous avez peut-être été surpris de croiser des bateaux, mais pas sur la Seine.
Oui, ils étaient près d'une vingtaine de voiliers à sillonner la capitale cette nuit pour rejoindre le parc des expositions de la Porte de Versailles, où le salon nautique ouvre ses portes bientôt. Et parmi ces bateaux, le Pendwick d'Éric Tabarly, long de 15 mètres. Il fallait une sacrée organisation pour déplacer ces géants des mers, comme l'a constaté Marguerite Lefebvre.
Dans ses rétroviseurs, Fabien ne quitte pas du regard le bateau qu'il doit emmener porte de Versailles. Bien harnaché sur sa remorque, c'est le Pendwick, le premier voilier d'Éric Tabarly.
C'est une icône ce bateau, hein. Tout le monde le connaît, Pendwick. Hein. Puis moi, je l'ai vu naviguer quand j'étais petit, c'est joli. Hein.
Vous allez parader ?
Bah ouais, en quelque sorte, ouais.
Parader, car pour rejoindre le parc des expositions, pas question d'emprunter le périph', dont les ponts sont trop bas pour ces géants des mers, pourtant dématés. Escorté par les motards de la police, c'est bien dans le centre de Paris que s'élance le convoi.
Pont de l'Alma, l'avenue Marceau, l'Étoile, Foch,
et après les Maréchaux.
Il faut faire attention, surtout que là, il dépasse pas mal de la remorque à l'arrière. Il faut faire attention aux panneaux quand on tourne, parce que derrière, ça balaye.
Ici, le moindre feu de circulation est un obstacle. Au pas et après une bonne heure de route, les premiers voiliers arrivent porte de Versailles. Un soulagement, comme à chaque fois, pour Alain Pichavant, le commissaire général du salon.
Tout s'est bien passé. Pour nous, c'est important parce que c'est vraiment le début du chantier, puisque maintenant, là, il va y avoir 4000 personnes qui vont monter le salon pendant 10 jours.
4000 personnes qui réceptionneront chaque nuit de nouveaux bateaux. 1 millier d'embarcations sont en ce moment en route pour Paris.
Reportage de Marguerite Lefebvre. Et le salon nautique, c'est du 8 au 16 décembre. Porte de Versailles pour les voir en vrai, ces bateaux.
On passera une tête. C'était le journal de 7h, présenté par Hélène Zélani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 7h11, on jette un coup d'œil à l'édito éco de Nicolas Barré.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Mon cher Nicolas, en annonçant une taxe CO2 flottante, le président de la République a voulu répondre à la colère exprimée dans la rue. Mais attention, cette piste pourrait se retourner contre lui. Pourquoi ? Expliquez-nous.
Ben oui, est-ce vraiment une bonne idée, cette taxe flottante ? La dernière tentative remonte à Lionel Jospin entre 2000 et 2002. Elle a laissé un très mauvais souvenir parce que, à l'époque, le gouvernement avait baissé la taxe pour atténuer la flambée des prix du pétrole. Mais le piège s'était refermé. Quand les prix sont remontés, on était censé remonter la taxe. Mais comme il y avait la présidentielle, le gouvernement a calé et fait une croix sur des milliards d'euros de recettes fiscales. Tout ça pour quelques centimes qui se voyaient à peine sur le prix à la pompe. Bref, la taxe flottante, ça a peu d'impact sur le prix de l'essence et un impact énorme sur les finances de l'État.
Oui, mais le président de la République a dit dans ses termes qu'il voulait rendre la taxe plus intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, justement, ça risque d'être le contraire, parce qu'il y avait au moins une chose intelligente dans la TIPP flottante à la Jospin, c'est que la formule était automatique en fonction des cours du pétrole. Ça n'est pas le cas avec la taxe CO2 flottante version Macron. Il annonce des rendez-vous tous les trimestres. Autrement dit, ça va devenir un rendez-vous politique. Si les prix montent, la pression sera maximale sur le gouvernement pour qu'il renonce à une partie de la taxe. Or, l'addition peut monter très vite. La taxe carbone sur l'essence doit rapporter environ 12 milliards d'euros par an. Si on la supprime, ça fait donc un trou énorme dans le budget. Et en ressuscitant l'idée d'une taxe flottante, Emmanuel Macron ouvre la boîte de Pandore. Et s'il doit renoncer aux milliards de cette taxe, eh bien, on se demande comment il financera son autre promesse d'hier, l'accélération de la baisse des impôts.
Nicolas Barré, l'édito éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1.
Et il est 7h13, direction Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques pour retrouver Carole Ferry-Nicos.
Alors vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, Europe 1 s'est installé à Mourinx pour être au plus près de ceux qui vivent, de ceux qui expriment le malaise social, celui des classes moyennes en colère contre la politique du gouvernement. Alors depuis lundi, Carole Ferry, vous rencontrez les Mourinxois. Vous êtes où ce matin ? J'entends du bruit.
Alors bah, écoutez, ce matin, je vous emmène dans un garage un peu spécial, un garage social.
Ici, ça si bosse
vous
êtes déjà.
Oui, tout à fait. Si vous êtes au RSA ou que vous avez de faibles revenus, eh bien, vous pouvez louer une voiture pour 2,50 euros la journée pour aller travailler ou chercher un emploi. Car ici, nous sommes en milieu rural, alors vous avez une nationale, une départementale, mais pas de bus, pas de gare, elle est à 6 km. Sans voiture, eh bien, pas de travail. C'est l'angoisse qui a pesé sur Nathanaël quand sa voiture est tombée en panne, alors qu'il venait juste de décrocher un boulot après plusieurs mois de chômage.
Alors en fait, un matin, moi, je me suis levé, puis j'ai voulu aller bosser. Elle a pu démarrer, et puis j'avais pas les moyens de payer des réparations, sachant que c'était hyper grave. Si une voiture qui est partie, eh bien, elle est pas quoi. Donc j'étais vraiment à pas savoir quoi faire. Puis j'ai pu rencontrer justement ce garage. Deux jours après, j'ai pu avoir le véhicule et reprendre mon boulot. Ça a été pour moi le tournant qui a fait que j'ai pu continuer à travailler. Il est sûr et certain que j'aurais perdu mon travail. Quoi. C'était vraiment sans véhicule ici, la vie s'arrête. Quoi.
On dit qu'il faut faire du covoiturage. C'est pas possible dans la région ?
Là, c'est pas possible. J'ai beaucoup de kilomètres à faire chaque jour dans plusieurs villages, plusieurs endroits sur la même journée. Donc un covoiturage, c'est impossible.
Voilà la voiture indispensable pour Nathanaël, une voiture pour 2,50 euros la journée, on a entendu, mais c'est financé comment, Carole ? D'où viennent ces véhicules ?
Alors l'État finance en grande partie le salaire des trois employés. Il y a notamment un garagiste pour entretenir les voitures. Le département finance également le coût de la location. Pour ce qui est des véhicules, ce sont des dons des entreprises ou des particuliers. Il y en a 20 aujourd'hui, mais ça ne suffit pas à répondre à la demande. C'est pour ça que Sonia, qui gère le garage, lance un appel à la générosité avec ce slogan « Une auto pour un boulot ».
On a déjà dû dire non à des personnes parce que tous nos véhicules étaient occupés. C'est des gens qui ne peuvent pas aller sur une mission, qui ne peuvent pas répondre à un hypothétique employeur ou qui ne peuvent pas rentrer en formation. Et on a besoin de ces véhicules.
On vous donne des vieux diesels que les gens de toute façon ne peuvent plus utiliser ou pas seulement ? Est-ce que vous, ça vous gêne ? Vous dites l'essentiel, c'est que les gens puissent travailler ?
On a quand même beaucoup de dons d'essence. Après, on prend aussi ce qu'on a. Si des gens veulent nous donner des véhicules neufs, des véhicules électriques, il n'y a pas de souci. On sera preneurs, mais malheureusement, les gens nous donnent un peu ce qu'ils peuvent nous donner.
Ouais, bon, je vais faire le tri.
Voilà, et si l'association reçoit suffisamment de dons, eh bien elle souhaiterait également vendre des véhicules très peu chers pour offrir tout simplement une véritable autonomie aux bénéficiaires.
J'ai hâte de venir dans ce garage vendredi, on fera la matinale en direct.
Je peux vous dire que vous êtes très attendu, Nikos.
Nous avons hâte, Europe 1 sur le terrain, et c'est toute la semaine, c'est tous les jours sur notre antenne à 7h15.
Et il est 7h16, restez avec nous sur Europe 1, à suivre Nikos Aliagas.
On va partir en Syrie dans un instant, en zone de guerre. On va vous emmener sur la route d'Idlib. C'est le dernier bastion des résistants au régime de Bachar al-Assad. C'est une vaste zone démilitarisée qui entoure désormais la ville assiégée. Et vous allez l'entendre, toutes les tensions de la région y sont cristallisées. Europe 1 va plus loin sur le front syrien, c'est juste après ça.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 7h18, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
La communauté scientifique internationale très inquiète après l'annonce d'un chercheur chinois. Il confirme avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés, des jumelles qui seraient résistantes au virus du sida. Le chercheur annonce ce matin faire une pause dans ses recherches. Les gilets jaunes, plus remontés que jamais, mécontents des annonces d'Emmanuel Macron, ils appellent à une nouvelle mobilisation samedi à Paris. Football, de partout pour Lyon contre Manchester City. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions n'est pas acquise. Ce soir, le Paris Saint-Germain doit réussir l'exploit au Parc des Princes face à Liverpool.
Europe 1. Nikos Aliagas, Europe 1 va plus loin ce matin sur le front syrien.
Trois jours après l'attaque au chlore sur l'ouest d'Alep, nous avons choisi de nous arrêter dans cette zone démilitarisée qui entoure la ville d'Idlib. C'est une zone tampon, instaurée in extremis, et ce pour éviter à cette dernière poche de résistance de subir les foudres de Bachar al-Assad. Objectif, éviter un bain de sang comme dans la Ghouta en mai dernier, 1300 morts, ou à Alep il y a 2 ans. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. Vous vous êtes rendu sur l'un des postes avancés de la défense syrienne aux abords de cette zone.
Et pour vous donner une vue d'ensemble, les responsables de cette unité vous conduisent sur un promontoire près d'une ancienne citadelle de pierre, là où sont positionnés une dizaine d'hommes et deux canons pointés vers le nord. Juste à côté, dans un bâtiment blanc, des militaires russes supervisent cette unité. Leur rôle est de s'assurer que ces soldats syriens respectent bien le cessez-le-feu. De ce poste, le chef Simon El-Wakil surplombe une bonne partie de cette zone démilitarisée.
Nous sommes exactement sur la ligne de séparation. De l'autre côté, c'est la province d'Idlib. Juste en face de nous, à 3 km, il y a une base de terroristes. Et le mur de terre que vous voyez juste à côté des arbres, c'est aussi une de leurs positions. Elle est à 4 km. En théorie, cette zone démilitarisée s'étend sur 15 km devant nous. Mais ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, les rebelles essaient sans cesse de briser cet accord.
Et à peine dit-il cela qu'une série de bruits sourds retentit au fond de la vallée, une vaste étendue traversée par une route rectiligne. De chaque côté, sur les 20 km qui séparent les villes en première ligne, des champs à perte de vue, un no man's land où chaque maison est en ruine.
Mais dans ces villes en première ligne, comment réagissent les habitants, Jean-Sébastien Soldaigne ?
Eh bien, du côté syrien de la zone démilitarisée, ils n'ont pas le sentiment d'être protégés. Ils se sentent à portée permanente des obus tirés par les djihadistes. Ils vous dressent toujours la même liste des attaques plus ou moins récentes pour appuyer leurs propos. Et puis, comme Milad qui vit tout près de cette ligne de démarcation, ils reprochent aux forces turques de ne pas remplir leur mission, de ne pas assurer leur part du travail dans ce cessez-le-feu.
On ne peut plus faire confiance à la Turquie. Parce que depuis le début de cette guerre, tout ce qu'ils ont fait, c'est de nous trahir. Ils encouragent le terrorisme. C'est à cause d'eux que nous sommes visés. C'est à cause d'eux que nous vivons dans la peur.
Et puis il y a ceux qui considèrent que l'instauration de cette zone tampon n'est qu'une perte de temps. Tant pis si Idlib et ses 3 millions de civils subissent le même sort que la route ou Alep, les mêmes bombardements massifs, qu'importe à vous froidement Madeleine.
On en a marre que d'autres pays interviennent sur le sol syrien. Là, il y a les Turcs et les Russes, en plus des rebelles. Maintenant, il est temps que l'armée syrienne continue sa progression et termine le travail qu'elle a commencé en allant reprendre Idlib.
Pour appuyer leur raisonnement, ils invoquent la récente attaque au chlore sur Alep, la crainte d'un bombardement chimique de plus grande ampleur qui les pousse à remettre en cause purement et simplement l'accord de cessez-le-feu.
Merci Jean-Sébastien Soldaigne, envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. Tous les jours, Europe 1 va plus loin à 7h20.
Europe 1, il est 7h22.
À suivre l'innovation du jour avec Anissé Mbida. Vous allez voir, chers auditeurs, vous allez plutôt entendre, et Céline Dacosta aussi, que nous allons découvrir des voitures aux carrosseries transparentes.
Ouais.
À quoi ça sert? Je ne sais pas. La réponse avec le spécialiste Anissé Mbida, tout de suite.
Il est 7h25.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissé Mbida, Nicolas Aliagas.
Mon cher Anissé, je viens de lire que vous allez nous parler de voitures qui ont une carrosserie transparente pour avoir plus de visibilité pendant les manœuvres, mais je ne comprends pas le concept. Je veux que vous m'expliquiez ce matin.
Alors d'abord,
je n'ai pas l'intelligence de la voiture transparente.
C'est pas un concept, c'est même pas un concept car. C'est une voiture qu'on peut acheter. On pourra elles seront commercialisées dans les prochaines semaines. Alors c'est pas la voiture en verre comme l'avion transparent de Wonder Woman.
Ouais, je pensais que
donc en fait,
ça,
ce sont des voitures qui utilisent un système de caméra et d'écran pour supprimer tous les angles morts. Par exemple, pour la visibilité à l'arrière, souvent on voit pas grand chose parce que la lunette arrière est toute rikiki. Eh bien, on reprend le principe de la caméra de recul, mais on la met plus haut, on filme en grand angle et on renvoie l'image directement sur le rétroviseur intérieur qui est en fait un écran. Et du coup, on a l'impression que tout l'arrière de la voiture est totalement transparent.
Donc ça ne marche pas si la voiture n'est pas transparente en fait, c'est ça, c'est pour ça. Ça marche aussi sur les côtés ?
Ça marche, oui, il faut que la voiture n'est pas transparente visuellement, mais la caméra fait que nous, quand on est à l'intérieur, on a l'impression que l'arrière est complètement transparent. Et sur les côtés, c'est le même principe, on remplace les rétroviseurs par des caméras. On met des écrans, on plaque des écrans à l'intérieur. Mmh. Et donc, comme ça, on n'est pas gêné par les gros montants latéraux. Ou même, on voit très, très bien ce qui se passe dehors, même s'il y a de la buée et même s'il pleut. Et pour éviter de rouler sur des débris, par exemple, si on veut se garer au millimètre, on peut aussi avoir une caméra sous le capot avant de la voiture. Là, l'image est renvoyée sur le tableau de bord. Et comme ça, on a l'impression, cette fois, que le capot avant, tout l'avant de la voiture est complètement transparent. On voit ce qu'il y a au niveau des roues. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est des choses qu'on ne voyait jusqu'à présent que sur les concept cars. Et bien, désormais, c'est commercialisé chez Lexus, Chevrolet et chez Range Rover.
Anissem Bida, l'innovation pour y voir plus clair. C'est tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Suivi conso, conseil personnalisé, aide aux travaux. Aujourd'hui, EDF développe des offres et des services innovants pour vous aider à mieux consommer. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kalman, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol.
Faites-moi rêver, monsieur Cabrol, ce matin. Les gens se réveillent, ils s'habillent, ils font quoi? Dites-moi.
Ils vont au boulot.
Ok, merci d'être venu. Bonne journée et à demain.
Ça, c'est déjà le premier rêve.
Certains sont à la maison, mais bon, on s'habille comment?
Écoutez, moi, je pensais que le premier rêve, c'était celui d'avoir du travail, mais c'est aussi. Mais si vous pouvez vous habiller tranquillement, prenez de quoi vous abriter de la pluie sur la moitié nord. Sur la moitié sud, à vous abriter du froid, parce qu'il fait quand même pas chaud. Moins 1 degré dans le froid, dans l'est et dans le sud. Hein. Lyon, 1 degré, 2 à Nancy, 4 à Toulouse, vous voyez, ce sont des 7 à Marseille, ce sont des petites températures. Et puis dans le courant de la journée, quand même, les thermomètres vont bien remonter. Nous aurons du 8 du côté de Colmar, 9 à Lyon, 10 à Lyon même, 11 à Lille, 12 à Paris, 12 à Clermont, 13 à Caen, 14 à Toulouse, 16 à Marseille. Donc vous voyez, l'habillement n'est pas simple à résumer, parce que ce matin, pour certains, c'est de la pluie. Alors la pluie nord, Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne, les Vosges, puis l'Alsace, ce sont des régions qui seront très arrosées aujourd'hui. Tant mieux pour les Vosges, on a besoin d'eau. Mais sur les côtes de la Manche, avec de la Loire, la région parisienne, on s'habille avec un imperméable ce matin, que l'on va laisser légèrement de côté dans le courant de l'après-midi. Et puis sur la Bretagne, et bien une nouvelle perturbation va arriver. Là, on va chausser de nouveau le petit chapeau et puis on va y aller pour affronter dans le golfe du Morbihan cette nouvelle dégradation qui arrive. J'ai oublié la région Rhône-Alpes, le Massif central et le Poitou-Charentes. Là, ce sera gris et humide tout au long de la journée, même maussade, mais il n'y aura pas d'intempéries ou très très peu. Vous voulez peut-être avoir une idée de demain?
J'allais vous demander.
la pluie, un peu le même schéma si vous voulez. La pluie qui apparaît là, dans le golfe du Morbihan, j'en parlais à l'instant, va gagner toute la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, puis le Nord, puis la région parisienne, puis le Centre. Vous voyez, encore de la pluie demain sur une petite moitié Nord. Et ailleurs, les éclaircies vont commencer à poindre avec du vent marin dans son domaine, c'est-à-dire dans le golfe du Lion. Et la fin de semaine s'annonce quand même, je dis tout de suite à ceux qui sont fans de samedi, dimanche et lundi, s'annonce quand même assez pluvieux cette fin de semaine.
Merci beaucoup. Puisqu'on parle de fin de semaine, vous nous direz dans un instant le temps qu'il fera vendredi. On sera à Mourinx pour la matinale vendredi.
Les Atlantiques, oui.
Exactement.
Ouais, je vous dirai ça.
Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier matin. Le discours était attendu, mais les mesures annoncées ont-elles convaincu? Le débrief de Jean-Michel Apathy dans 10 minutes. Il est en régie avec nos équipes techniques. Si vous êtes sur Europe1.fr, vous allez aussi voir nos nouveaux studios. Il y a la vidéo, il y a l'image. 7h45, je reçois une éminente personnalité du monde de la musique, une immense cantatrice qui parle aussi de l'actualité. Barbara Hendricks sera mon invitée. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Et si ce n'est pas déjà fait, allez télécharger la toute nouvelle application Europe 1 pour nous écouter, suivre l'actualité, mais également nous envoyer vos messages. La nouvelle application Europe 1, une version plus simple à télécharger dès maintenant ou à mettre à jour tout simplement. Bienvenue à vous en ce mercredi 28 novembre, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal avec Céline Kalman. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Pas franchement de suspense. Hier, à l'issue du discours d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes ont très vite fait savoir qu'ils ne stopperaient pas leur mouvement. L'un des porte-parole reçus par le ministre François de Rugy a appelé à redescendre dans la rue samedi sur les Champs-Élysées, la même où de violents affrontements ont opposé forces de l'ordre et manifestants il y a 5 jours. Un homme de 27 ans a d'ailleurs été écroué hier soir, mis en examen après avoir blessé à l'œil un policier samedi dernier. Hier donc, Emmanuel Macron a réaffirmé que la taxe sur le carburant serait maintenue mais temporairement suspendue si le prix du pétrole variait. Pour Philippe Gilet jaune à Hazebrouck dans le Nord, le chef de l'État tente de gagner du temps.
Ça n'amènera rien du tout, je pense juste qu'il veut faire traîner les choses en espérant que le mouvement va s'étouffer, qu'on ne va plus entendre parler des gilets jaunes, c'est tout. Les gens forcément au bout d'un mois, deux mois, ils vont se lasser, ils vont voir qu'ils n'obtiennent rien, et puis il y aura eu gain de cause quand même.
Il dit pourtant entendre la colère des gens.
Ben oui, mais bon, il n'y a pas notre place, il n'y a pas les mêmes revenus. Alors bon, il n'y a rien lâché, on lâchera rien non plus. Mais là, comme on voit qu'il se fout vraiment du monde, je crois que la colère, elle va s'amplifier au lieu de s'apaiser.
Philippe Gilet jaune déterminé au micro-repin de Lionel Gouge.
Bachelot.
Et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est en tous les cas très attendue par les Gilets jaunes sur l'île de la Réunion.
Oui,
ce matin.
Sur l'île où la mobilisation reste très forte. La ministre a promis de se rendre à un barrage pour aller à la rencontre des manifestants. Hier soir, à l'Assemblée nationale, un amendement pour les entreprises d'outre-mer a été adopté. Elles vont pouvoir bénéficier d'une exonération supplémentaire des charges sociales à hauteur de 130 millions d'euros. Hier, lors de son discours, Emmanuel Macron a affirmé que la situation actuelle était la conséquence de 40 ans de petites décisions d'ajustement. Une phrase qui est restée en travers de la gorge de l'ancien ministre Éric Woerth.
Ça commence à bien faire. Ça fait maintenant 18 mois qu'il considère que le monde est né en même temps que son élection. Il ne s'était rien passé avant. C'est inadmissible. Ça veut dire qu'aucun président de la République, aucun gouvernement, aucun Français n'a jamais fait le moindre effort pour changer le pays. Évidemment, on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour faire des réformes, mais vraiment pas. Et on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour se poser la question de la concertation qu'il est en train de découvrir. Il est nécessaire de débattre en démocratie. Quelle belle idée ! La pagaille d'aujourd'hui, c'est le fruit du désordre que le gouvernement a lui-même provoqué depuis 18 mois. À taxer les uns, à détaxer les autres, à faire des choses dans tous les sens, sans jamais rien expliquer. Et on ne comprend pas.
Éric Woerth au micro Europe 1 d'Aurélie Herbemont.
Europe 1, il est 7h32.
Ça vous est déjà arrivé peut-être, votre médecin qui vous prescrit un arrêt de maladie, mais vous, vous allez quand même travailler.
Oui, on apprend ce matin que 23% des arrêts maladie ne sont pas respectés. Études menées auprès de 2000 personnes, ce sont les cadres et les dirigeants d'entreprises qui renoncent le plus à rester chez eux. Écoutez Anne-Sophie Godon, elle est directrice innovation de Malakoff Médéric qui publie cette étude ce matin.
Il y en a la moitié qui, en discutant avec le médecin, finalement, déclare ne pas vouloir prendre cet arrêt maladie. Et puis, il y a l'autre moitié qui rentre chez soi avec un arrêt maladie, qui finalement décide de ne pas le prendre. Alors, qui sont ces salariés? On retrouve de manière plus importante des cadres, des dirigeants. Donc là, c'est des raisons autour finalement de la conscience professionnelle, mais aussi la peur de revenir au travail avec plus de travail encore qu'en partant. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des salariés qui travaillent dans des secteurs d'activité particuliers, notamment le commerce et l'hôtellerie-restauration. Alors ça atteint jusqu'à 30%. Ils voient les conséquences pour l'équipe qui va devoir les remplacer, mais aussi pour l'entreprise. Et puis, des salariés qui ne sont pas couverts par une garantie prévoyance en cas d'arrêt maladie et donc pour lesquels la perte de salaire n'est pas possible financièrement.
Anne-Sophie Godon avec François Geffrier. Il y a un an, son acquittement avait créé la polémique et lancé le débat sur l'instauration d'un âge minimum de consentement à un acte sexuel. Un trentenaire a finalement été condamné hier en appel à 7 ans de prison pour le viol d'une fillette de 11 ans.
Sa parole est rare. Edward Snowden donne une interview à Paris Match qui paraît aujourd'hui.
Oui, Snowden, ex-employé de la NSA, avait révélé au monde entier il y a 5 ans l'espionnage mené par les services américains. Il est toujours réfugié à Moscou et il veut à son tour aider ceux qui l'ont soutenu pendant sa traque. C'est ce qu'il a raconté à Émilie Blacher de Paris Match.
Il veut venir en aide aux personnes qui l'ont aidé à l'époque, en juin 2013 à Hong Kong, et qui ont aujourd'hui vu leur destin brisé, justement. Et les autorités n'ont pas oublié Edward Snowden. Ils le craignent toujours, finalement. Ils ne savent absolument pas ce que les données qu'il a pu prendre avec lui contiennent. Et ne pouvant pas l'atteindre, puisqu'il est en Russie, ils font encore tout aujourd'hui pour intimider, menacer les personnes qui ont aidé Snowden à l'époque. Snowden m'a dit que finalement, il ne serait jamais en sécurité, que s'il avait voulu être en sécurité, il travaillerait toujours pour une société de sous-traitance de la NSA. Il ne regrette absolument pas ses actes et encore moins voilà, les révélations fracassantes qu'il a pu faire.
Émilie Blacher avec Sébastien Krebs pour Europe 1. Donald Trump menace d'annuler sa rencontre avec Vladimir Poutine en marge du G20 en Argentine après la capture par les gardes-côtes russes de 3 bateaux militaires ukrainiens. Le président Petro Poroshenko évoque la menace d'une guerre totale avec la Russie.
Europe 1, il est 7h35.
Mercredi, sortie cinéma et le dessin animé de Noël à ne pas rater.
Oui, l'histoire du Grinch dont la tranquillité va être perturbée par les préparatifs de Noël. C'est l'excellent acteur Laurent Lafitte qui prête sa voix au Grinch.
Je trouve ça super intéressant, moi, d'aborder quelque chose, une espèce de consensus familial de bonne humeur et d'essayer de le retourner. Et puis, ça remet Noël au bon endroit, parce que ce que le Grinch va mettre en place va finalement faire réaliser aux habitants de Chouville que Noël, bah, c'est pas juste manger jusqu'à l'agonie et s'offrir des trucs dont on n'a pas besoin.
Vous, Noël, c'est un bon moment en famille, c'est un moment entre amis, c'est...
J'adore l'esthétique traditionnelle occidentale de Noël. Après, la réunion familiale obligatoire un jour donné, bah, il y a des années, ça va. Et puis, il y a d'autres années où on aurait peut-être plutôt décalé ça de quelques mois ou quelques semaines.
Laurent Lafitte avec Mathieu Charrier pour Europe 1.
Vous avez le temps d'aller au cinéma, Céline Kallmann ?
Pas vraiment. C'est dommage.
J'essaye.
Je vous emmènerai avec les petits, vous inquiétez pas. Avec votre mari, avec toute la famille. C'était le journal de 7h30. Merci Céline.
Europe 1.
Et il est 7h36.
À suivre, mon cher Jean-Michel Apathy.
Bonjour Nikos.
On va parler de quoi ?
Ben, on va parler du discours d'Emmanuel Macron, qui n'a pas convaincu grand monde, même pas lui si ça se trouve.
Aïe, vous me direz pourquoi juste après ça. À tout de suite.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel Apathy, le président de la République a pris la parole, il a dit entendre les revendications des Gilets jaunes, il a annoncé une série de mesures pour tenter d'apaiser les colères. Mission réussie ou manifestement ça n'a pas suffi ?
Non, ça n'a pas suffi parce que la mission est impossible. Alors le chef de l'État a concédé quelque chose à défaut de supprimer les taxes prévues sur le carburant début janvier. Il a quand même dit qu'un mécanisme serait mis en œuvre pour essayer de contenir les prix de l'essence. Mais ça ne suffit pas parce que tout le monde comprend bien que le mouvement des Gilets jaunes est passé à autre chose. C'est d'ailleurs pour saisir cette autre chose ou tenter de le saisir qu'Emmanuel Macron a proposé des discussions décentralisées sur l'ensemble du territoire pendant 3 mois. On ne sait pas trop ce que c'est. On voit l'idée, on reprend à Emmanuel Macron de tout décider tout seul. Alors il dit, réunissez-vous, prenez la parole, faites remonter des idées, on fait le point dans 3 mois, ça réintroduit en plus...
Il gagne du temps aussi.
Oui, ça gagne du temps, ça c'est un peu cynique, mais je ne suis pas sûr qu'il ait fait pour ça en fait. Ouais. Je pense qu'il a fait aussi pour que les gens parlent, parce que ça détend toujours un peu l'atmosphère quand les gens parlent, et puis il réintroduit ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les associations, les syndicats. Donc, mais en même temps, parler de quoi ? Parler, a dit le chef de l'État dans son discours, des conséquences de la transition écologique. Bon, personne ne comprend rien. Bon, moi je veux bien qu'on en parle, mais en fait, de quoi on parle exactement, on ne sait pas. Les Gilets jaunes, ils veulent qu'on parle d'une chose simple, que le président de la République a acté d'ailleurs dans son discours d'hier. Les salaires qui sont trop bas, et on ne finit pas la fin de mois. Les retraites qui sont trop basses, et on ne finit pas la fin de mois. Le chef de l'État, qui est un homme intelligent, qui est capable de synthétiser tout ça, a une formule assez forte. Il a parlé des vies empêchées. Comment on fait pour que des vies empêchées ne le soient plus ? C'est quand même une question assez dramatique, au fond. C'est celle-là que les Gilets jaunes veulent voir traiter. Mais c'est une question impossible à traiter, parce qu'il y a 50 ans, mai 68, ça se termine en augmentant le SMIC de 30%. C'est inimaginable aujourd'hui. Les petites retraites, personne ne peut les augmenter. Au contraire,
il demande un SMIC à 2000 euros, pardon de vous interrompre.
Oui, bien sûr. Donc ça, le SMIC à 2000 euros, enfin, bien sûr, idéalement, c'est formidable. Mais là, les entreprises, elles ne tiendraient pas le coup. Les petites retraites, on est en train de faire une réforme des retraites parce que les équilibres financiers sont menacés. Donc on voit bien que le discours n'atteint pas ces objectifs-là parce qu'ils ne sont pas atteignables. Du coup, les Gilets jaunes disent quoi ? Ils disent un truc effrayant. Tous les samedis, on sera sur les Champs-Élysées. Mais on ne peut pas imaginer que tous les samedis se produira ce que s'est produit samedi dernier, c'est-à-dire cette violence. Donc l'hypothèse même que le mouvement des Gilets jaunes s'étiole dans la rancœur et l'amertume est très forte. Et ce matin, je pense qu'on peut comprendre cela. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, il est un tournant dans l'histoire de la société française. C'est une prise de parole pleine d'amertume et de désespoir qui se libère et qui va imprimer sa marque pendant longtemps, longtemps, longtemps. C'est avec ça que nous devons vivre et c'est beaucoup plus important qu'un fait d'actualité. Anodin. On se souviendra peut-être des Gilets jaunes aujourd'hui, comme on se souvient de mai 68 il y a 50 ans, mais pour des raisons beaucoup plus sombres, hélas.
Jean-Michel Apathy, votre point de vue tous les jours à 7h40 sur Europe 1. À présent, c'est vous qui le dites chaque matin. Chers auditeurs, vous réagissez à l'actualité sur le répondeur d'Europe 1, le 3921, avec ce coup de gueule d'un de nos auditeurs. On l'écoute.
Bonjour Nikos, c'est Jean-Michel de Dijon.
Bonjour.
Tout ce qui se passe en ce moment là, ça me laisse terriblement perplexe. Je pense effectivement que la France est tombée dans une espèce de bobocratie où à la tête on a des hommes et des femmes qui sont complètement déconnectés de la réalité de ce que vivent les gens sur le terrain et notamment dans l'espace rural qui sont complètement abandonnés. On a changé simplement le président et je pense que les conseillers derrière, ces politiciens professionnels n'ont pas changé en fait. Pour qu'il y ait vraiment un changement, c'est tous ces hauts fonctionnaires qu'il faut changer. Si eux ne changent pas, la France ne pourra pas changer et surtout, de grâce, écouter les gens.
Écouter les gens, bobocratie, changer les fonctionnaires. Alors ça, c'est un ressenti, mais la réalité, quelle est-elle, Jean-Michel ? Alors, il n'y a pas de sous.
C'est un problème. Ce que dit notre auditeur est une pensée à la mode, puisqu'Emmanuel Macron va réunir les hauts fonctionnaires le 12 septembre pour leur dire allez sur le terrain, partagez la vraie vie des Français. En même temps, il ne faudrait pas transformer les hauts fonctionnaires en bouc émissaire, parce que l'ultime responsabilité des choix et des actions, ça relève quand même de la politique. Et la politique, c'est élire des gens pour qu'ils nous proposent des solutions aux problèmes qu'on connaît. Donc c'est eux qui sont en première ligne et pas les hauts fonctionnaires.
Merci Jean-Michel Apathy.
Vous aussi, vous pouvez laisser votre message à Nikos au 3921, le répondeur de l'actu, ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h43, Nikos Aliagas.
Elle est l'une des artistes les plus aimées, les plus admirées au monde. Une référence, près de 45 ans de carrière sur les grandes scènes d'opéra de la planète. Dans un instant, je reçois la cantatrice Barbara Hendricks. Elle sort un album de blues, The Roads to Freedom, l'occasion d'évoquer l'actualité mouvementée aussi avec une artiste très engagée. Elle arrive dans notre studio. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Nicolas Sagagas.
Un appel au blocage total de l'île de la Réunion a été lancé pour aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est attendue sur place pour aller à la rencontre des Gilets jaunes. Donald Trump menace de couper les subventions à General Motors. L'entreprise a annoncé la suppression de milliers d'emplois et la fermeture d'usines dans l'Ohio, le Michigan et Maryland. Et puis en Ligue des Champions, Lyon devra aller chercher sa qualification à Donetsk le 12 décembre. Hier, les Lyonnais ont terminé sur un nul face à Manchester City de partout. À suivre ce soir, Paris Saint-Germain-Liverpool à 21h au Parc des Princes. Un mot de météo humide sur une grande moitié nord et particulièrement dans le nord-est. Nuages au sud, température de 6 à 18 degrés.
La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h.
Europe 1.
Nikos Aliagas, vous recevez ce matin la cantatrice Barbara Hendricks.
Un peu de musique s'il vous plaît pour commencer cet entretien.
Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me.
Oh freedom, extrait de l'album de Barbara Hendricks intitulé The Road to Freedom. Les chemins ou le chemin vers la liberté. Bonjour Barbara Hendricks.
Bonjour.
Vous êtes l'une des plus grandes voix au monde. Bon anniversaire, vous venez de fêter vos 70 ans il y a quelques jours. Et le 10 décembre prochain, nous allons célébrer les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme. C'est votre livre de chevet ?
Oui, c'est plutôt mon jumeau, jumelle, comme c'est la déclaration. C'est quelque chose, quand j'ai découvert cette déclaration, ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais témoin enfant de la lutte pour les droits civils aux États-Unis, menée par Martin Luther King, mais inspirée par Rosa Parks et d'autres femmes inconnues.
Vous êtes née alors qu'il y avait la ségrégation dans l'Arkansas ?
Oui, dans l'Arkansas, oui, dans la période de cette 100 ans d'apartheid aux États-Unis. Je dis à l'université, je luttais un peu contre la guerre en Vietnam pour les droits des femmes. Et dans cette déclaration, quand j'ai découvert une place pour tout le monde, je dis, où tout le monde peut se retrouver et en respectant les uns et les autres, faire un meilleur monde pour tout le monde. J'ai toujours une copie. Dans mon sac à main.
Vous avez dans votre sac à main une copie là de la Déclaration des droits de l'homme.
Oui, exactement.
Vous pourriez m'en citer un extrait ?
Ah oui, surtout l'article numéro 1 qui
dit
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.
Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
Ils sont doués de conscience et raison et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Oui, c'est vrai parce que tout le monde est libre. Nous sommes libres. Cette liberté ne peut pas être. On ne peut pas prendre la liberté. On peut prendre la vie, mais pas la liberté.
On peut enfermer quelqu'un, mais on ne peut pas voler sa liberté de penser sa liberté d'expression.
D'exister.
Et d'exister et de conscience. Vous parlez aussi du respect de l'autre. Dans l'actualité, le débat migratoire en ce moment n'a jamais été aussi commenté, autant commenté, n'a jamais autant divisé les Européens. C'est devenu un sujet politique, un sujet tabou qui divise aussi les classes politiques. Vous êtes ambassadrice de bonne volonté au Haut-Commissariat aux réfugiés, aux Nations Unies. Pourquoi l'Europe occidentale ferme-t-elle les yeux ou a du mal à trancher, selon vous, américaine devenue européenne, sur le débat des migrants ?
Je crois que c'est parce que nous, les êtres humains, nous sommes assez paresseux. On préfère penser qu'il y a quelque chose qui est désagréable ou qui est difficile. Ah oui, ça va passer. Et je crois qu'on a dû ici en Europe, il y a plus que 25 ans, commencer de vraiment regarder ce, je dis ce problème, je dis migration, c'est quelque chose qui c'est depuis le début des temps, les gens ont migré d'un pays à l'autre, mais d'avoir vraiment une politique juste et humaine. L'immigration, c'est quelque chose que les Européens n'ont pas fait. Et en plus, ils ont laissé un peu le microphone à ceux qui avaient peur et qui voulaient instaurer la peur. Parce que...
La parole est plus entendue du côté de ceux qui montrent du doigt les migrants.
En pensant qu'on ne dit pas grand-chose, ce n'est pas grave. On avait laissé tout la scène, devant la scène, à ceux qui voulaient vraiment instaurer la peur. Et quand on a peur, ça mène vers la haine, ça mène vers la destruction. Et le seul antidote pour ça, c'est l'amour.
Mais les flux migratoires à venir, alors que la guerre provoque des sorties de centaines de milliers de personnes un peu partout, au Proche et Moyen-Orient, l'Afrique demain, font peur aux Européens parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de les accueillir. C'est ce que disent notamment ceux qui haussent le ton et qui montrent du doigt.
Je crois qu'il faut trouver les moyens d'agir parce que nous sommes tous les êtres humains. La personne... Vous savez, personne ne met ses enfants dans un bateau. À des enfants qui ne peuvent pas nager dans un bateau s'ils ne pensent pas que la mer est plus sûre que la terre. Et il faut voir ça comme... nous sommes les êtres humains et nous sommes obligés de trouver une solution.
Obligation morale, éthique, vous dites,
oui,
au-delà de la politique.
Ce n'est pas facile. Moi, je ne dis pas du tout que c'est facile. Ce n'est pas juste on ouvre les portes et on laisse tout le monde entrer. Mais il a des moyens, d'abord, de faire en sorte que les gens, pour demander l'asile, là, avant de faire ces traversées dangereuses et meurtrières. Et si on voulait savoir, nous, au HCR, Filippo Grandi, il avait dit, il a déjà 2 ans, il avait une sorte de plan qu'on peut suivre pour avoir une politique qui est plus juste et plus humaine. Et je crois que le moment est maintenant, ou sinon on a vraiment peut-être une situation
pire,
comme on voit au Brésil, aux États-Unis. Et ce n'est pas juste un problème européen, c'est de notre civilisation aujourd'hui.
C'est un problème de civilisation.
Quelle est la civilisation qu'on veut laisser pour nos enfants?
Nous devons apprendre à vivre ensemble, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. C'est Martin Luther King que je cite ce matin, que vous citez aussi dans votre album qui est dédié au blues. Restez avec nous. La fin de l'interview est arrivée, on n'a plus le temps, mais je vous propose de rester un quart d'heure avec nous. Un petit quart d'heure, si vous avez un petit quart d'heure.
Oui, d'accord.
On va en parler entre les flashs, entre les chroniques. Je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à se dire ensemble. Barbara Hendricks, votre album est un petit bijou à l'image de votre carrière, de votre voix, de votre éthique aussi. The Road to Freedom, à consommer sans modération.
Europe 1. Mais il est 7h52.
On va parler avec Axel de Tarlé dans un instant du plan énergétique détaillé par Emmanuel Macron. Et puis, il y aura la petite histoire qui va nous emmener à la frontière des États-Unis et du Mexique avec Jean-Philippe Ballas. Et puis, direction 8h, l'île de la Réunion où la ministre des Outre-mer doit faire des annonces importantes alors que le territoire s'enlise dans la crise. A tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h56, c'est l'heure du Zoom Echo. Nico Saliagas avec Axel de Tarlé.
Axel, pas question de sortir du nucléaire. Emmanuel Macron a dévoilé la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et le nucléaire, il y a toute sa place.
Oui, alors pourtant, je vous rappelle que Nicolas Hulot avait qualifié en août dernier le nucléaire de folie inutile le jour de sa démission. Et bien, visiblement, le président pense différemment. Alors même si officiellement, le compte y est, hein, Emmanuel Macron a annoncé hier la fermeture de 14 réacteurs, donc c'est énorme. Mais si on regarde dans le détail, excepté Fessenheim, les prochaines fermetures sont repoussées à 2027-2028, donc dans 10 ans. Et encore, précise le texte, si cela ne pose pas de problème de sécurité d'approvisionnement. Donc vous voyez, il est urgent de ne rien faire. D'ailleurs, Emmanuel Macron joue franc jeu, hein, il le dit très clairement. Je n'ai pas été élu pour sortir du nucléaire. Et il ajoute que c'est là une énergie à bas coût et décarboné, donc pas cher et sans CO2 en clair, pourquoi s'en priver ?
Mais si on ne change rien, ça veut dire que la France va prendre du retard dans les énergies propres.
Alors ça, c'est le risque. Et c'est pour ça que dans le même temps, Emmanuel Macron a appelé à un triplement d'ici 2030 du parc d'éolien, donc trois fois plus d'éoliennes, et un quintuplement du solaire. Alors ça paraît énorme, hein, mais enfin, il faut savoir qu'on part de très bas. Aujourd'hui, ouais, l'éolien, c'est 4% de notre électricité et le solaire, même pas 2%. Et puis surtout, le problème de ces énergies propres, c'est qu'elles sont financées par des taxes. 5 milliards d'euros aujourd'hui, 8 milliards demain, taxes que nous payons tous via notre facture d'électricité. Regardez sur votre facture, c'est la ligne CSPE. Elle représente aujourd'hui 13% de la facture totale d'électricité. Donc vous voyez, en ces temps de gilets jaunes, il faut y aller doucement avec les taxes. Donc en résumé, on ne change rien. On garde le nucléaire et on ajoute tout doucement des énergies propres.
Merci Axel de Tarlet. Le Zoom Echo.
Et à 7h58, on passe à la petite histoire du jour avec Jean-Philippe Ballas, Nikos.
Avec Barbara Hendricks avec nous dans le studio. Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous allez nous parler de l'histoire d'une photographie qui a fait la une aux États-Unis.
Ouais, cette photo a été prise à la frontière avec le Mexique. Elle montre une femme, une mère de famille, visiblement en panique. Elle court en empoignant ses deux filles, des jumelles de 5 ans. L'une est pieds nus, l'autre en couche-culotte. Elle court. Derrière, on aperçoit des barbelés et la fumée blanche d'un gaz lacrymogène. Cette famille vient du Honduras. Elle a parcouru des milliers de kilomètres. La jeune femme s'appelle Maria Mesa. Et en quelques heures, cette image est devenue un symbole pour ceux qui dénoncent la politique d'immigration de Donald Trump. Sobrement, le photographe raconte comment il a saisi cet instant au milieu du chaos. Les gens couraient dans tous les sens. Et j'ai repensé à ce qu'ils me disaient. Ils étaient là pour donner un meilleur avenir à leurs enfants. J'ai vu cette mère avec ses deux filles et je me suis naturellement concentré sur elle. Voilà comment une jeune femme anonyme dans une caravane de migrants se retrouve soudain à la une de la presse américaine et des réseaux sociaux. Maria Mesa jure qu'il n'était pas question pour elle de traverser illégalement. Elle voulait juste demander l'asile. Depuis, elle a regagné sa tente de fortune à Tijuana avec son mari et leurs enfants. Ils sont toujours ce matin de l'autre côté de la frontière.
La petite histoire qui traverse les frontières et les barbelés, on est dans l'actualité. On est dans vos préoccupations, Barbara Hendricks.
Oui, exactement. Et je crois que pour tous ceux qui ont la possibilité de voir cette photo, il faut... Moi, je mets le visage de ma belle-fille avec mes deux petits-enfants qui ont à peu près le même âge. Et voilà quelle est la réaction que vous aurez si c'est vos enfants, vos petits-enfants dans cette situation. Et c'est là où on peut trouver la solution.
Mmh. Il est où Martin Luther King ou que reste-t-il de Martin Luther King dans l'Amérique de Trump aujourd'hui?
Bon, on entend dans Barack Obama chanter Amazing Grace aux obsèques des gens qui étaient tués dans les églises dans la Caroline du Sud. Je crois qu'il en a beaucoup parce qu'il avait laissé beaucoup derrière lui, Martin Luther King. Il n'était pas seul, comme je l'ai dit. Il avait beaucoup de femmes qui ne sont pas connues, qui ont lutté aussi. Ils continuent de lutter aujourd'hui. Et on peut dire que le résultat de les dernières élections aux États-Unis, c'est vraiment un exemple qui a été fait par les femmes afro-américaines qui ont vraiment voté, poussé et aussi sont présentés aussi et qui sont au Congrès, qui seront au Congrès au mois de janvier. Voilà, je dis Martin Luther King avait laissé des grains qui restent.
Qui poussent.
Et oui, et qui est laissé, qui pousse aujourd'hui et toujours. Parce que qu'est-ce qu'il a dans ces grains de Martin Luther King? C'est cette idée que nous sommes tous semblables et c'est ce qu'on partage, c'est l'amour. How
sweet the sound that saves. Avant le journal de 8h et avant la météo, Barbara Hendricks avec The Road to Freedom, son dernier album, tourné partout en Europe et le 12 février 2019 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et le 2 mars à Châlons-en-Champagne. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, madame.
Merci.
Que dit le ciel, mon cher Laurent Cameron?
Le ciel est...
Ça fait du bien un peu de musique comme ça, un peu de musique qui nous élève.
Il est à l'unisson de ce que nous venons d'entendre, surtout dans les régions du sud où le temps sera calme avec des vents, et à peine de vent et pas mal de soleil. Donc sud-ouest, c'est le bassin méditerranéen, le vent s'est calmé. Et puis dans toutes les autres régions de France, plus on monte vers le nord et plus ça devient pluvieux. Alors très pluvieux en Bourgogne, dans les Vosges, en Lorraine, dans ces régions où on a besoin d'eau. Et puis moyennement pluvieux sur la région parisienne où ça ira mieux cet après-midi. Enfin sur la région Rhône-Alpes et le Massif central, ce sera gris, humide mais sec.
Merci Laurent Cabrol.
Excellent début de journée à tous à l'écoute d'Europe 1 ce mercredi 28 novembre. Il est 8h02. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Nous prendrons la direction de l'île de la Réunion dès le début de ce journal. Cela fait 11 jours que le quotidien sur place, ce sont les barrages et la violence. La ministre des Outre-mer vient d'atterrir à Saint-Denis. Question, Annick Girardin sera-t-elle en mesure de ramener le calme ? Elle ne pourra sans doute pas se servir des annonces d'Emmanuel Macron hier. C'est un dialogue de sourds entre le chef de l'État et les Gilets jaunes. Un nouvel appel à manifester a été lancé pour samedi prochain. Et enfin, que se passe-t-il à Orléans ? Un agresseur sexuel sévit sur le campus universitaire. 5 étudiantes ont subi ces attouchements en seulement une semaine. L'homme est activement recherché.
Europe 1.
11 jours de blocage, des violences urbaines presque tous les soirs, des affrontements quotidiens avec les gendarmes sur les multiples barrages qui parsèment l'île. S'il y a bien un endroit où le mouvement des Gilets jaunes s'est durci, c'est à La Réunion. La ministre des Outre-mer vient d'atterrir à Saint-Denis. Vous êtes sur place avec elle, Gwendoline de Bonneau. Bonjour.
Bonjour.
Annick Girardin, Gwendoline n'a pas l'intention de s'échapper. Elle veut aller sur les barrages pour se confronter aux Gilets jaunes et elle ne va pas être déçue, c'est ça ?
Oui, dès sa sortie du terminal, le ton est donné. Annick Girardin est accueillie sous les huées et tout juste arrivée. Elle peut mesurer la colère de l'île paralysée, mais aussi les attentes que suscite sa visite. Au premier barrage sur l'échangeur proche de l'aéroport, des centaines de gilets jaunes l'attendent au cri de démission. La ministre des Outre-mer répète qu'elle est là pour écouter, dialoguer des heures s'il le faut, mais elle a bien du mal à se faire entendre. La Réunion est une fille de la République, dit-elle. Les gilets jaunes lui parlent des affrontements avec les forces de l'ordre. Une Marseillaise est entonnée dans la chaleur étouffante. Les gilets jaunes se succèdent au micro pour parler de leurs revendications et il y en a presque autant que de manifestants. Une retraitée demande à Annick Girardin de revoir les petites retraites à la hausse. Des étudiants prennent ensuite la parole. Une mère de famille raconte ses fins de mois impossibles à boucler. Annick Girardin reste silencieuse, elle écoute. Elle devrait faire ici des annonces concernant l'emploi et le coût de la vie plus cher à La Réunion que dans l'Hexagone. La ministre des Outre-mer veut se rendre dans toutes les parties de l'île et n'en repartir que lorsqu'il y aura des signes d'apaisement. Vu la tonalité ce matin, elle pourrait rester plusieurs jours à La Réunion.
Merci Gwendoline de Bonneau, vous étiez en direct de Saint-Denis de La Réunion pour Europe 1.
Et à Paris, David, c'est un dialogue de sourds qui s'installe entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes.
Oui, comme si la situation était figée, quoi que dise le président de la République. Les annonces du chef de l'État n'auront eu aucun effet sur les Gilets jaunes. Après une rencontre hier soir entre deux porte-parole et François de Rugy, un nouvel appel à manifester samedi prochain sur les Champs-Élysées a été lancé. Par ailleurs, ils ne veulent plus parler au ministre de l'Écologie. Ils veulent être reçus par le porte-parole du gouvernement ou le Premier ministre. Voilà qui commence vraiment à sentir mauvais sur le plan politique. Adrien Beck nous a rejoint. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Les inquiétudes s'expriment, Adrien, de plus en plus librement au sein même de la majorité.
Oui, et y compris chez les députés les plus loyaux au président. L'un d'entre eux, hier hors micro, refuse presque de me répondre. Il me dit « Le geste sur le carburant, c'est une mesurette noyée au milieu d'un trop long discours. » Et puis, il y a toute l'aile écolo de la majorité, quelques dizaines de députés. Ils sont sur la même tonalité. C'est le cas de Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire. Lui se dit carrément déçu.
Les réponses, les annonces nouvelles n'ont pas été faites aujourd'hui. Alors s'ouvre une grande concertation de 3 mois avec l'ensemble des acteurs. C'est intéressant de redialoguer avec toutes les forces organisées. Je crois que ça aurait été encore mieux si on avait eu en plus des mesures fortes dès maintenant sur la rénovation énergétique.
Voilà, des députés qui ne cachent donc pas leur malaise. D'autres voix dans la majorité avaient déjà fait entendre leurs différences ces dernières semaines. Jean-Yves Le Drian, rappelez-vous, sur Europe 1, François Bayrou, le maire de Pau, qui semblait hier soir un peu rassuré, mais dans les rangs de la majorité, même si certains saluaient l'inflexion présidentielle, tous sont unanimes. Ces mesures sont encore beaucoup trop floues, pas assez concrètes. Et une chose est sûre, ça ne suffira pas à éteindre la colère.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Merci Adrien pour ces informations. J'ajoute sur ce sujet des éléments concernant les doléances des Gilets jaunes. Les porte-paroles qui ont été reçues hier par François de Rugy ont transmis des demandes. Ça va beaucoup plus loin que la simple fiscalité du carburant. Il demande la baisse de toutes les taxes et la création d'une assemblée citoyenne.
Et puis à l'origine de tout ce que vous venez d'évoquer, il y a une colère sourde et profonde installée dans le pays, David Doucan.
Oui, et Europe 1 s'attache à en comprendre les ressorts. Toute la semaine, nos reporters ont pris leur quartier dans la ville de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, où se conjuguent toutes les exaspérations. 6700 habitants, 65% de logements sociaux, pas de transport en commun digne de ce nom, et un centre urbain qui périclite comme dans de très nombreuses villes moyennes de notre pays. À Mourinx, depuis 2015, plus d'une dizaine de commerces a fermé. La mairie se bat pour faire rouvrir des boutiques. Cela marche, mais les élus locaux se débrouillent tout seuls, sans l'État. Reportage Théo Manval.
C'est aujourd'hui un restaurant, celui de Céline et de son mari. Il y a encore 2 mois, c'était le local vide d'une ancienne boucherie fermée faute de repreneur. À Mourinx, une dizaine de commerces ont baissé le rideau depuis 3 ans. Alors pour stopper l'hémorragie, la mairie a décidé de racheter plusieurs locaux, de faire signer un bail précaire à très faible loyer à ceux qui voulaient se lancer.
Vous payez combien de loyer ?
350 euros par mois, 50% en dessous du prix du marché.
Et sans ça, vous auriez pu vous installer ?
Non.
Et aujourd'hui, l'affaire, elle tourne, on est là à midi, il y a du monde.
Les gens qui habitent dans les petites villes comme la nôtre, ils ont envie que leur ville soit vivante, que les commerces soient ouverts. Et on a l'impression que les pouvoirs au-dessus, ils font tout le contraire pour que les gens, ils viennent ici pour dormir, ils aillent consommer ailleurs.
Car ces aides de la mairie ne sont valables qu'un an, renouvelables, après tout risque de retomber. D'où l'appel de l'adjointe au commerce Sylvie Mousquès, qui ne veut pas voir fermer la nouvelle cordonnerie ou le magasin d'informatique.
Il y a de l'aide au niveau des mairies, mais après, on a besoin d'une aide de la part de l'État. Il est temps de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de vivre de son commerce. Bien souvent, il faut que le conjoint soit salarié.
Et aille travailler hors de Mourinx, prenne la voiture et accessoirement fasse le plein. À Mourinx, Théo Manval, Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal, que se passe-t-il à Orléans ? Un climat de psychose s'est installé dans la ville. 5 agressions sexuelles en une semaine sur le campus universitaire. Europe 1 sera sur place dans un instant. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 8h10, votre matinale info, Nicolas Saliagas.
Le journal avec David Doucan à la suite du journal direction Orléans, peur sur la ville.
Oui, en particulier sur le campus universitaire. 5 étudiantes ont été victimes d'attouchements. Toujours le même scénario. Elles sont en train de rentrer chez elles une fois la nuit tombée et un homme leur tombe dessus. C'est arrivé 5 fois en seulement une semaine. Une enquête est ouverte. L'agresseur est activement recherché par la police. Rémi Bossaron, vous êtes sur place. Et vous vous trouvez, pour Europe 1, dans la rue où toutes ces agressions ont été commises ?
Oui, c'est une petite rue de ce campus, hein, bordée par des arbres qui longent les tours d'une résidence universitaire. C'est ici, effectivement, qu'ont été agressées ces jeunes filles, avec à chaque fois le même scénario. L'homme les suit, le visage caché par une capuche, puis il se jette sur elles, les touche à travers leurs vêtements et s'enfuit quand elles commencent à crier. Cette menace, tout le monde en parle, elle effraie les étudiantes, comme Samira, que j'ai rencontrée hier soir ici, alors qu'elle rentrait chez elle d'un pas pressé.
On a peur. On essaye de rentrer plus tôt, de faire des courses le matin si on a le temps, parce que quand on termine à 19h, c'est un peu dangereux quand même. Surtout de l'université jusqu'à la résidence chez Châtelignier, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien.
Alors l'université assure tout de même que les patrouilles de police ont été renforcées ici, mais depuis qu'elle a lancé un appel à la vigilance lundi sur les réseaux sociaux, certaines, comme Sarah, osent à peine sortir de chez elle.
J'ai essayé d'aller au cours, après en rentrant je ne sors plus. Je ne peux pas aller par exemple pour faire des courses maintenant ou pour des rendez-vous. J'ai peur qu'il arrive quelque chose.
Et l'université cherche désormais à savoir en interne si d'autres étudiantes ont subi une agression similaire.
Merci Rémi Bottsar, vous étiez en direct d'Orléans pour Europe 1.
Les clubs français en Ligue des Champions, on est loin du parcours de santé. Hein.
Oui, en effet, hier soir, l'Olympique Lyonnais a concédé le match nul face à Manchester City. De partout, l'OL peut encore se qualifier pour les 8e, mais ça ne sera pas facile. Quant au Paris Saint-Germain, il affronte ce soir le club de Liverpool et les Parisiens sont dans une situation encore plus délicate que celle des Lyonnais, Simon Rubin.
Ce soir, c'est bien plus qu'un match de football. Pour le PSG, l'enjeu est économique, stratégique. C'est tout le projet qatari qui joue une partie de son avenir. Rendez-vous compte, le Qatar a investi plus €1,5 milliard d'euros au PSG. Une élimination est donc inenvisageable. Au club, on a affiché une relative sérénité toute la semaine, mais les dirigeants sont bien conscients de l'enjeu et du risque. Le défenseur Thomas Meunier le dit également, la pression monte.
Déjà, on est un peu au pied du mur. Le scénario est un peu différent. C'est pas comme si on avait un maximum de points et qu'on pouvait se permettre, je veux dire, une erreur.
Là, ici, on va devoir faire le jeu, on va devoir jouer offensive, prendre un peu plus de risques même. Il faut juste voir un visage du PSG motivé, offensif. Voilà, on va juste gagner. On va juste gagner, on n'a pas le choix.
En cas d'élimination, le Qatar ne lâcherait pas Paris, évidemment. Mais il s'agirait d'un coup d'arrêt au projet dispendieux du PSG et d'une humiliation intolérable pour le Qatar. Les membres de l'état-major du club le savent. Ce soir, leurs têtes sont sur le billot et seuls les joueurs peuvent éviter au PSG un naufrage historique.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Je vous fais un brief rapide, Nikos, parce qu'on est tous bien en tête la situation. Paris peut être éliminé dès ce soir de la Ligue des Champions s'ils perdent contre Liverpool et que dans le même temps, les Italiens de Naples battent Belgrade.
Mais Mbappé et...
Ils sont là. Mbappé et Neymar sont là. Voilà. Ouais. Ils vont mieux.
Merci beaucoup, Neymar, Mbappé. En force, c'était le journal de David Doucan.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 8h13, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nico.
Haute tension en Ukraine. Le président Porochenko évoque la menace d'une guerre totale avec la Russie. Après l'affrontement avec la marine russe, le torchon brûle.
Oui, il y a des incidents de frontières qui débouchent sur la guerre, mais pas en Ukraine pour deux raisons. La première, c'est que la guerre est dure depuis déjà 5 ans. C'est une guerre de basse intensité. Ça veut dire que dans la hiérarchie de l'actualité, elle est tout en bas. Il y a des morts, mais peu, et on en parle tout bas. L'autre raison, c'est que l'Ukraine elle-même est une frontière entre les russophones et les europhiles, entre l'OTAN et le Kremlin, entre le patriarcat de Constantinople et celui de Moscou, entre toutes sortes de clans qui se disputent le contrôle de territoire. Et la guerre d'Ukraine, c'est la somme de tous ces incidents de frontières.
Certes, mais cette bataille navale, Vincent, c'est la première confrontation directe entre militaires russes et ukrainiens.
Alors la bataille a eu lieu dans le détroit où la mer Noire devient la mer d'Azov. Depuis que les Russes ont annexé la Crimée, ils contrôlent les deux rives du passage, il faut leur demander l'autorisation de passer, et ils traînent les pieds. En plus, ils ont construit un pont, c'est le plus long d'Europe, le plus bas aussi. Les gros cargos ukrainiens, les Panoramax, ne passent pas dessous. Ce pont est donc un mur, et il enferme la mer d'Azov et ses ports ukrainiens. Dimanche, la marine ukrainienne a tenté le passage en force. Les Russes ont écrasé les provocateurs, arraisonnant les trois bateaux, incarcérant les marins. Ils parlent de violation de frontières, avec un culot quasi-soviétique. Tout ça est bon pour Vladimir Poutine qui a dévissé dans les sondages depuis qu'il a réformé les retraites, bien pire qu'Emmanuel Macron. Il ira demain au G20 avec un bonnet et peut-être un pompon rouge.
Et à Kiev, le président Porochenko a fait voter la loi martiale.
Alors lui aussi prend une posture virile à quelques mois d'une élection désespérée, tellement son bilan est nul et la corruption générale. L'ONU s'inquiète, l'Amérique menace, l'Europe gémit. C'est un jeu de rôle. Il y a des incidents de frontières, mais c'est une guerre de propagande que se livrent les deux camps, prêts à tout pour discréditer l'ennemi. Cela rend prudent, mais pas forcément inquiet.
Merci pour cette cartographie politique et géopolitique dans la région. Vincent Hervouet sur Europe 1, tous les
Europe 1.
Jours.
Et les 8h15.
Dans deux minutes, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara qui reçoit...
Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il fait partie des 12 présidents de région qui ont demandé un moratoire sur les taxes à Emmanuel Macron. En tant que président de région, il a des reproches à faire au président et au maire de Marseille.
A tout de suite, Audrey.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h19, Nico Saliagas.
Et le président, les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Renaud Muselier.
Bonjour.
Avec d'autres présidents de région, vous avez signé un texte pour réclamer un moratoire sur la hausse des taxes des carburants prévue le 1er janvier. Texte signé par des élus socialistes et des élus républicains. Ça prouve que la fracture territoriale prime désormais sur le clivage droite-gauche.
Ça prouve que l'ensemble des présidents de région sont en face de leurs propres responsabilités dans le cadre de la loi NOTRe qui nous confie des responsabilités importantes que nous sommes en phase directe avec le pays, avec ces territoires qui sont très différents entre l'Ouest et l'Est et le Sud.
Mais vous avez entendu Emmanuel Macron hier, le moratoire c'est mal parti quand même.
Et nous avons surtout entendu, nous avons proposé un moratoire à monsieur le président de la République, et alors maintenant comme il nous a dit non en tout cas, et je ne comprends pas, il est malade en fait de cette déconnexion avec le terrain, avec le peuple français.
Hier il a annoncé Emmanuel Macron une grande concertation de terrain sur la transition écologique. Vous savez si les régions seront un interlocuteur privilégié, il vous en a parlé ?
Jamais, il ne nous parle de rien, nous, il nous met dans le fait accompli. Donc
Toujours, même hier.
Donc la réalité, c'est que maintenant, je lui demande solennellement d'appliquer le moratoire. parce qu'aujourd'hui, sa réponse qui a été apportée dans son intervention hier était inadaptée au terrain. Donc qu'il fasse le moratoire, qu'il engage les 3 mois de discussion, de négociation, et après ces 3 mois, on verra ce qu'on fait. On est dans une phase qui sont les périodes de Noël, et on ne peut pas avoir le pays bloqué avec les commerces pris en otage, avec cette période très importante pour les Français, notamment pour les chiffres d'affaires, pour le produit intérieur brut, et cette colère qui gronde et qui monte et qui n'arrive pas à arrêter. Donc qu'il fasse le moratoire et qu'il renvoie à 3 mois sa proposition qu'il ne veut pas toucher.
Et cette grande concertation de terrain qu'il prétend lancer, il ne vous en a pas parlé, alors que vous êtes des interlocuteurs de terrain pour le coup, non ?
Oui, mais vous savez qu'entre les maires, les départements et les régions, nous sommes regroupés dans le territoire uni, parce qu'il ne nous a jamais parlé. Parce qu'il nous a... Nous, on a une démarche
et il
très
ne vous parle toujours pas, c'est ce que
ah,
vous
maintenant,
dites.
Oui, là, maintenant, depuis le remaniement, il a fait un ministère qui doit faire en sorte que le Premier ministre nous a reçus et on le reverra en janvier. Oui. Mais tout ça n'a aucun sens par rapport aux gilets jaunes. Et donc, il se doit d'appliquer ce moratoire, et c'est un appel solennel que je lui lance.
Renaud Muselier, les régions ont le pouvoir de fixer les prix des cartes grises pour soutenir les fins de mois difficiles des gilets jaunes. Est-ce qu'il ne faudra pas baisser le prix des cartes grises ?
C'est en votre pouvoir, mais c'est pas à nous de suppléer les carences de l'État.
C'est en votre pouvoir.
Oui,
je prends un exemple, votre région, oui. Elle est celle où le prix de la carte grise est le plus élevé, 51 euros par cheval fiscal contre 40 euros chez Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Vous voulez qu'Emmanuel Macron baisse les taxes perçues par l'État, mais vous ne voulez pas baisser les taxes perçues
par la région.
Oui,
mais par exemple, moi, j'ai enlevé les impôts sur toute la fiscalité verte. Donc, chacun fait un peu comme il doit s'organiser.
Mais ces taxes-là, vous pourriez les baisser, vous ?
Mais je pourrais les baisser.
Et pourquoi vous ne le faites pas ?
Parce que pour l'instant, je suis en train de faire une écologie positive où je fais en sorte que, par exemple, pour le bioéthanol, je fais en sorte que l'achat des boîtiers pour tous les véhicules puisse être fait par les habitants de la région. Et j'ai baissé, je suis la seule région de France à avoir baissé les impôts en ce qui concerne, et supprimé l'impôt sur la fiscalité verte. Donc on se retrouve dans une démarche où on essaye au fur et à mesure de payer ce que l'on a en charge. Et aujourd'hui, l'État nous fixe des charges supplémentaires. Et donc, nous avons une démarche qui est très simple, qui paye décide, mais qui décide paye.
Oui, mais alors, les régions disent qu'elles ne récupèrent pas assez d'argent de l'État. Et là, vous demandez une baisse des taxes. C'est pas vraiment logique.
Non, mais par exemple, quand ils prennent
quand
des décisions...
Quand vous parlez de
moratoire. Oui, mais là, le moratoire, ce n'est pas une baisse des taxes, c'est une augmentation des taxes. On lui demande, là, de décaler à trois mois et de discuter pendant ces 3 mois pour voir si on les met en place ou non. Il y a aujourd'hui le sentiment généralisé, corps confondu, enfin comme les régions, les départements, les villes ou les habitants de ce pays, d'être oppressés, agressés et pressurisés sans savoir où ça va. Il y a un sentiment d'injustice qui entraîne une gronde. C'est la province contre Paris.
Et les gilets jaunes vous mettent tous dans le même sac, hein, la classe politique, parce que je rappelle, la fracture sociale, ça date de Chirac, vous étiez au gouvernement.
Hein. Oui, tout à fait.
Renaud Muselier, vous dites que le logement doit devenir la première urgence publique après l'effondrement rue d'Aubagne à Marseille. On a eu le sentiment que l'État, la mairie, les propriétaires rejetait la responsabilité. Dans un article du Parisien aujourd'hui en France, on apprend que plusieurs dizaines de millions d'euros de subventions versées par la région pour des opérations de rénovation urbaine n'ont pas été dépensées. Il y a eu détournement de fonds, il y a eu fraude.
Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de dépense de fonds. La région, ce n'est pas dans ses compétences, mais c'est la rénovation urbaine. Nous avons débloqué 65 millions d'euros sur la totalité de la région, sur tous les territoires. 18 millions ont été débloqués pour Marseille, qui ne les a pas consommés.
Et vous n'avez exercé aucun contrôle sur l'usage de cet argent public ?
C'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas été consommés, c'est qu'ils ne nous ont pas demandé. L'action n'a pas été faite. Donc on ne paye pas des actions qui ne sont pas faites. Donc c'est le dysfonctionnement de la ville qui fait en sorte que des moyens mis à leur disposition ne sont pas utilisés. Donc le travail n'est pas fait. Comme le travail n'est pas fait, on ne paye pas.
Et vous n'avez aucun droit de regard là-dessus ?
C'est pas ma compétence. Donc je leur dis je vous aide et ils ne veulent pas le faire. Donc je ne peux pas le faire à leur place.
Marseille, Renaud Muselier, est victime de clientélisme. En janvier, vous parliez de mandats de cohabitation politico-mafieuse au sujet de Gaudin et Guérini. Vous disiez aussi, le maire de Marseille veut imprimer l'image d'un grand maire, mais la fin de son mandat montrera qu'il a été un mauvais maire. C'était prémonitoire ?
Disons que je connais bien le fonctionnement de cette ville que j'aime tant et j'ai dit qu'il y avait 2 mandats de trop exactement. Et dans un des deux, j'ai dit, et je rappelle et je confirme ce que vous venez de rappeler sur ce mariage honteux entre M. Gaudin et M. Guérini.
Donc c'était prémonitoire ce qui s'est passé à Marseille ?
C'était en quelque sorte prémonitoire parce que en tant que président de région, je travaille la totalité des métropoles. C'est la seule ville à qui je ne peux pas travailler. Voilà. Tous les systèmes sont défaillants. Donc à partir de ce moment-là, je vois bien que le maire ne faisait plus son travail. Donc
le
maire bâtisseur aujourd'hui devient maire fossoyeur.
Maire bâtisseur devient maire fossoyeur. Jean-Claude Gaudin, vous le tenez pour responsable donc de l'effondrement des immeubles ?
On va voir les parts de responsabilité. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République pour homicide involontaire avec négligence. Et en tout cas, la ville de Marseille ou ses satellites est directement propriétaire d'un des immeubles qui est tombé.
Renaud Muselier, vous avez été le premier adjoint de Jean-Claude Gaudin pendant 12 ans.
Premiers mandats.
De 95 à 2008. Ce n'est pas un handicap pour briguer la mairie de Marseille en 2020 ?
Alors, c'est surtout une liberté totale d'expression que je suis un des seuls à avoir à Marseille. Je ne suis pas candidat à la ville de Marseille.
Je pensais que vous alliez me dire ça. Voilà, je suis heureux à la tête de ma région.
Non, mais c'est là où je peux aider le plus ma ville.
L'enfant du pays ne doit pas être insensible à la mairie de Marseille en 2020.
L'enfant du pays est dévasté par ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on a une des villes qui est les plus belles de France, avec des réussites économiques fantastiques, et on a des immeubles qui s'écroulent sur des bras. C'est insupportable, hein, c'est insupportable.
Mais la mairie, ça fait un moment que vous priez la bonne mère, non ?
Non, je ne prie pas la bonne mère, je travaille moi. Voilà. Mais je prie la bonne mère pour d'autres choses qui sont plus importantes. Mais Marseille, c'est ma ville, c'est mon amour, ma perle. Mais pour autant, je pense que je peux plus l'aider de la région. Mais cette liberté d'expression est très importante parce qu'à Marseille, aujourd'hui, sous Jean-Claude, on est dans un déni permanent. Et bien ce déni, aujourd'hui, on peut s'exprimer.
Merci Renaud Muselier.
Merci de votre accueil.
Bonne mère, amen. Allez, Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale tous les jours à 8h15 et Véronique Dollet qui nous dit sur les réseaux sociaux « Je suis dans les bouchons et pour passer mes nerfs, je vous écoute la matinale d'Europe 1. Merci. » À suivre ce matin dans la matinale, la revue de presse de David Abiker et le leader de l'année, c'est Didier Deschamps. Et à 8h45, vous le connaissez, vous l'adorez évidemment, Nicolas Canteloup arrive. À tout de suite.
Il est 8h26. Tout de suite avec Laurent Cabron, Nicolas.
Et pour tous ceux qui ne sont pas encore partis de chez eux, petit conseil vestimentaire, mon cher Laurent Cabron.
De la pluie, couvrez-vous si vous êtes sur le nord, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, les Vosges et l'Alsace, où il va pleuvoir. Les côtes de la Manche, la région parisienne, des pluies surtout ce matin. Une nouvelle dégradation arrive par la Bretagne dans l'après-midi. Si vous habitez le Poitou-Charente, le Massif central et Rhône-Alpes, un temps gris, maussade et humide. Dans le sud-ouest, c'est le bassin méditerranéen. Voici le soleil, ou en tout cas quelques rayons de soleil. Les températures maximales entre 9 et 16 degrés. Et sur les marchés maintenant, pour vous qui allez faire votre marché, la météo d'Europe 1 vous propose un nouveau service. La météo vous conseille et vous met en garde. L'avocat est en baisse, les choux-fleurs sont en hausse.
Mais c'est important.
Les tomates françaises, il n'y en a plus. Il faut maintenant opter pour la tomate aux cerises françaises. Et puis la salade est à la hausse et la mâche est bon marché.
Allez. Merci beaucoup. Vous nous donnerez tout à l'heure les adresses des dentistes dans la région. Merci beaucoup. Laurent Cabrol, l'homme à tout faire.
Europe 1, 8h30.
7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.
L'heure de la revue de presse de David Abiker, Nikos.
Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Alors ce matin, à la une, j'ai une devinette pour vous. J'ai une devinette, un quiz. Qui a dit ce matin dans le Figaro « Il n'y a pas de confort ni d'état de grâce. Dans ce métier, chaque jour te rapproche de la fin. Je le disais dès le début de mon mandat, à haut niveau, il faut des résultats. Si tu n'en as pas, tu connais la sentence. » Alors, qui a dit ça ?
Valérie Giscard d'Estaing.
Céline ?
Bah, j'en sais rien du tout. Qui ? On m'a soufflé, mais j'ai pas entendu la réponse. Alors,
c'est Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps, notre DG national, champion du monde. Il parle presque comme s'il avait une expérience politique.
Dingue.
Il vient d'obtenir le prix du leadership et parle ce matin dans le Figaro Économie de confiance, de mandat et de ce fameux rapport au temps qui ne laisse pas 100 jours pour agir et avoir des résultats. Alors évidemment, on pense à l'autre leader, au maître des horloges, à celui qui doit sans cesse arbitrer entre le court terme des fins de mois difficiles et le long terme de l'urgence écologique.
On entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde et nous on parle de la fin du mois.
Fin de mois contre fin du monde, c'est à la une du journal Sud-Ouest ce matin, David Abiker.
Eh oui, fin de mois, fin du monde, l'impossible équation, point d'interrogation, s'interroge le quotidien. Et Bruno Dive, dans son édito, admet que Macron a démontré hier qu'il avait incontestablement une vision pour l'avenir du pays. Mais il s'est davantage adressé à ceux qui redoutent la fin du monde plutôt qu'à ceux qui redoutent la fin du mois. Et si vous lisez la presse ce matin, il n'est question que de fin de mois difficiles. Dans le Télégramme et dans Centre Presse, Centre Presse est le journal de l'Aveyron, vous avez ces retraités qui vendent leurs biens pour payer leur maison de retraite. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, un tiers des personnes âgées sont contraintes de céder une partie de leur patrimoine pour s'offrir un hébergement et 45% envisagent de faire faire la même chose dans les années qui viennent. Ça, c'est un sujet de fin de mois qui annonce un problème de long terme, pointé dans l'étude. En 2050, la France comptera 5 millions de plus de 85 ans contre 1,5 million aujourd'hui. Voilà pourquoi l'État doit sans cesse agir avec un chronomètre dans le ventre, comme le crocodile, hein, je crois, de Peter Pan, autant qu'avec une longue vue. Et c'est pareil pour les universités avec un enjeu démographique comparable. Ouest France nous explique ce matin qu'elles sont dans le rouge, un peu comme les ménages. Elles ont du mal à boucler leur fin de mois et sont dans l'incertitude pour 2019. Pourquoi ? Ben parce que leurs charges augmentent, leurs missions s'élargissent, sans tous les moyens qui vont avec. Ça, c'est le court terme. Mais Ouest France nous le rappelle, on attend toujours plus d'étudiants. Comment financer demain l'université ? C'est toujours pareil, court ou moyen terme.
Les universités ont des problèmes de fin de mois, mais les magasins de centre-ville de Montpellier vivent toujours le jour.
En raison des blocages, exemple du Carrefour City du boulevard de Strasbourg à Montpellier, dont le rayon frais ressemble aujourd'hui à un magasin soviétique sous Brejnev, nous dit en substance le Midi Libre. Les magasins qui fonctionnent en circuit court ont moins de soucis car ils s'approvisionnent auprès de producteurs locaux qui savent contourner les barrages. Le circuit court, voilà un petit bout de solution entre le long terme écologique et le court terme de la feuille de paix, car dans la presse de ce matin, on trouve aussi des solutions immédiates qui préparent un peu l'avenir. Ainsi, face à la colère des Gilets jaunes, la communauté d'agglomération du Grand Calais vient d'annoncer la gratuité des transports en 2020. C'est un sujet à la mode, la gratuité des transports. C'est la une de Nord Littoral. Partout en France, vous avez des gens qui essaient de résoudre l'équation fin de mois, fin du monde. Exemple à la une de l'Éclair des Pyrénées. Les chercheurs de l'Université de Pau surveillent les lacs des Pyrénées et leur sensibilité aux variations du climat. Et ils associent le public à leurs observations, précise l'Éclair des Pyrénées. Alors qui vous dit que dans ce public qui s'intéresse aux lacs et au réchauffement climatique, vous n'avez pas des gilets jaunes qui sont tout à fait capables de penser aujourd'hui tout en s'inquiétant de demain. Voilà pourquoi je vous conseille de lire ce matin dans Libération le papier du géographe Guy Burgel. Ça s'appelle « Les fins de mois difficiles avant la fin du monde ». Certes, il y a fracture territoriale entre les gens des villes et ceux de la périphérie, dit le savant. Mais il y a aussi une fracture de conception entre ceux dont le niveau de vie leur permet de penser à l'avenir quand les autres ont le nez dans le guidon ou le volant à cause des fins de mois. Ces gens-là n'ont pas le même calendrier. Et justement, un calendrier qui pourra peut-être réconcilier tout le monde en France, il fait ce matin la une de Sud-Ouest. C'est celui de Franck Lissilourd. Il est facteur à Libourne et il pose à poil dans son calendrier avec 12 autres postiers. Il n'attend pas le réchauffement climatique, il attend juste des sous pour aider les Blues Roses, une association qui récolte des dons pour améliorer le quotidien des enfants, des adultes hospitalisés et des personnes âgées en EHPAD. Voilà, pour réconcilier tous les calendriers, parfois, il suffit de se déshabiller.
Déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite.
Vous savez toujours allier les mots, les images, l'actualité à cette mélodie qui va nous trotter dans la tête pendant toute la journée.
Ben oui, mais la musique met en ordre nos peines, disait le philosophe.
Juliette Gréco, ce matin sur Europe 1, dans la revue de presse de David Abiker.
Europe 1, il est 8h36.
On va passer un coup de fil dans quelques instants à Patrice Lecomte, les 40 ans des bronzés, une série documentaire sur France 3 à voir ou à revoir, et puis toujours cette même patte inimitable, petite pause café avec le papa des bronzés dans un instant. 8h45, lui aussi est inimitable, c'est le patron de l'imitation, Nicolas Canteloup. A tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 8h38, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
La hausse de la taxe sur le carburant sera bien mise en œuvre le 1er janvier, annonce ce matin du Premier ministre Édouard Philippe. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée ce matin à La Réunion. Elle s'est rendue sur le rond-point situé à proximité de l'aéroport de Lille où l'attendaient quelques 2000 personnes. La communauté scientifique très inquiète après l'annonce d'un chercheur chinois. Il confirme avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés. Le chercheur va toutefois faire une pause dans ses essais. Puis en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur ce soir face à Liverpool au Parc des Princes. Quant aux Lyonnais, ils devront aller chercher leur qualification à Donetsk le 12 décembre. Ils ont terminé sur un match nul face à Manchester City de partout hier soir.
Europe 1, Nico Saliagas, c'est votre journée.
Tous les matins, on passe un petit coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité ou à celui qui a un regard particulier sur l'actualité, à l'image du réalisateur Patrice Lecomte, notre invité. Bonjour Patrice Lecomte. Bonjour Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Patrice Lecomte ? J'entends le souffle de l'environnement, de l'espace dans lequel vous vous trouvez, mais je ne vous entends pas. Pourriez-vous vous exprimer ? Bonjour Patrice Lecomte. Il n'est pas loin, mais bon, on va essayer de la voir. Dans un instant, il y aura aussi Nicolas Canteloup. Julie est en pleine forme. Il a tout écouté de la matinale, Julie ?
Oui, je pense, oui, bien sûr.
Vous avez la voix enrouée ?
Un petit peu. Mais vous savez qu'il y a de l'air froid qui souffle ici.
Ouais, c'est la clim, ouais.
On ne va pas commencer à s'enrhumer dans nos beaux studios quand même.
Ouais, c'est vrai, mais je vais vous préparer un petit thé au miel, le temps de
s'il vous plaît.
Localiser et d'activer le GPS, la puce qu'il y a sur Patrice Lecomte, ou plutôt dans son téléphone.
On va le retrouver.
Il est avec nous au téléphone. Bonjour Patrice Lecomte.
Eh, bonjour Nikos.
Ah, ben ça fait plaisir. J'ai cru que je parlais à un moment dans le vide, mais vous étiez là en fait. C'était juste un
moi, je parlais dans le vide aussi, donc on parlait tous dans le vide et on ne pouvait pas s'entendre.
C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société française un peu, entre les gouvernants...
Le temps hivernal. La pluie, je ne sais pas, mais nous sommes ici.
Bon, voilà. Je disais qu'a été diffusée il y a quelques jours votre série de documentaires sur France 3 intitulée Boutiques Obscures. Vous êtes parti à la rencontre des petits commerçants dans la France entière. En fait, vous avez posé votre caméra sur la France périphérique, celle qui est loin des métropoles, avec des petites histoires qui racontent une autre histoire, plus intérieure.
Oui, c'est des petites histoires qui racontent des grandes histoires, parce que ça raconte des histoires de... gens, de personnes qui tiennent des commerces depuis longtemps et qui se demandent ce que vont devenir leur commerce, ce que va devenir leur commerce après, quand ils vont s'en aller. Une femme, par exemple, à Cavaillon, qui a une boutique de lingerie féminine, me disait « Moi, je suis triste parce que cette boutique, c'est mon bébé. » Elle en parlait comme de son enfant, parce qu'elle avait créé cette boutique toute seule et puis qu'elle est âgée, elle a plus de 90 ans. Elle va bientôt fermer, quoi, et puis il n'y a personne pour reprendre.
Donc, c'est quelque chose qui touche notre société, le déclassement, en fait, et la transmission.
Oui, oui,
qu'est-ce qu'on laisse et à qui on laisse ?
Oui, c'est tout à fait juste, mais je ne suis pas totalement pessimiste non plus, parce que quand on dit toutes les boutiques de centre-ville, les commerces de proximité fermés les uns après les autres, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Parce qu'il y a quand même des tas de gens, vous, moi et plein d'autres évidemment, qui se rendent compte que les grandes surfaces, la déshumanisation des commerces courants, c'est quelque chose de gavant en fin de compte et qu'on a envie de retrouver
du sur-mesure.
Un tissu humain, social, de conversation. Les gens, encore une fois, ça ne veut rien dire les gens, mais ils aiment parler. Quoi,
Nous aimons parler, nous sommes tous les gens de quelqu'un. Hein.
Oui, exact. Mais on aime rencontrer, parler, discuter et non pas acheter, consommer, payer et rentrer chez soi. Donc je sens, je sais pas, j'ai pas science infuse, hein, bien sûr, mais hélas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui était en train de s'éteindre et qui ne va peut-être pas s'éteindre complètement.
Alors, le 22 novembre dernier, le film, votre film, Les Bronzés, a fêté ses 40 ans. Ce film, c'était un peu à l'image d'une France insouciante qui part en vacances, vous savez, des classes moyennes qui avaient mis de côté et qui avaient encore un peu de pouvoir d'achat.
Oui, mais le pouvoir d'achat, il est restreint, mais enfin, il existe encore, heureusement. Et c'est vrai qu'il y a 40 ans, on tournait ce film. Alors nous, pour le coup, dans une totale insouciance, inconscience, j'ose pas dire, mais totale insouciance, parce qu'on faisait le film sans savoir, sans penser qu'on était en train d'inventer le film inusable. Et parce que le film a 40 ans, et franchement, c'est pas très modeste, mais il les fait pas.
Il les fait pas, il est toujours un miroir. Pas d'une certaine France, mais de notre pays et de nos envies qui traversent les modes, qui traversent les classes politiques.
Oui, mais vous avez raison, mais c'est ça qui est amusant à faire, c'est ça qui m'intéresse en tout cas, autant dans les boutiques obscures que dans Les Bronzés, que dans des tas de films auxquels je pense ou que j'ai fait, c'est de m'intéresser aux gens normaux, aux piétons, aux gens que j'observe et que j'observe avec un miroir qui renvoie ma propre image, bien sûr, parce qu'on est toujours dans ces films, on n'est pas là, goguenard, supérieur, à juger les autres, certainement pas, mais de juger, de parler plus exactement des gens qui
de
sembleraient tous des gens qui bien souvent sont des personnages de santé, et c'est ça que j'adore.
Merci Patrice Lecomte d'avoir été avec nous ce matin par téléphone, et votre série documentaire que je recommande à nos auditeurs est à revoir en replay sur France Télé TV+.
Europe 1.
À suivre, Nikos.
L'animal insortable Nicolas Canteloup et sa revue de presse. Julie est dans la place. À tout de suite.
Europe 1.
Il est 8h46.
Vous êtes dans les embouteillages peut-être, à la maison tranquillement, dans le métro, avec vos écouteurs, dans le bus, vous marchez sous la pluie. N'ayez crainte, il arrive. J'ai tout écrit, je ne vois pas d'autres possibilités, peut-être même dans votre salle de bain. Nicolas Canteloup arrive.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup.
Et Julie.
C'est parti avec le rappel du titre principal de l'actu. Nico, c'est à vous.
Salut à tous, salut. On est bien, faut-il le rappeler, sur Europe 1. On est tous bien sur Europe 1. On reste tous fidèles. Le bateau bleu d'Europe vogue avec son équipage, pardonnez-moi, au complet, et arrivera à bon port.
Mais c'est qui bon, dégage, Canteloup? Je t'en foutrais, moi, des patrons de l'imitation.
Non, Nadine Morano, enfin, Nicolas, il reste avec nous, voilà.
Mais entre nous, ce serait pas une grosse perte, franchement.
Ça va
il
pas,
sait...
non.
Mais attendez, il ne sait pas m'imiter. On dirait la voix de Peggy la cochonne. Hein, franchement, est-ce que je lui ressemble? Hein, à Patty, je vous fais plus penser à Sharon Stone ou Peggy la cochonne?
Répondez.
J'aime pas trop votre silence, là.
Joker.
Hein, franchement, je suis
Sharon
plus
Stone.
Sharon
Stone, évidemment.
D'accord, Nikos. Bon, mais voilà. Alors, qui dégage? Par contre, moi, je vais revenir tous les jours. Ça lui permettra peut-être de progresser sur ma voix.
Oui, c'est ça.
Bon, allez, voilà.
Laissez tomber. Merci, Nadine Morano. On revient à vous, Nikos.
Oui, l'actu. L'actu Surround, c'est ce chercheur chinois qui dit avoir donné naissance au premier bébé génétiquement modifié, protégé contre le sida. Alors même si le rêve génétique de tout chinois, c'est de naître avec une perche à selfie greffée à la main droite, on dit que c'est pas mal. D'ailleurs, quitte à les modifier génétiquement, ils auraient pu aussi ne faire les chinois, ne pas faire les chinois,
ne pas en faire des chinois,
ouais,
je crois.
Voilà, ils auraient pu leur rajouter aux chinois, ils auraient pu leur rajouter quelque chose de grec pour qu'ils aient enfin la classe.
Oh bah d'accord, allez, c'est bon. À demain, Nicolas. La réforme des institutions chère à Emmanuel Macron risque d'être enterrée. Devant la grogne des gilets jaunes, le gouvernement ne prendrait pas le risque de cette réforme coupée des réalités.
Bonjour. Vous me reconnaissez, chère Julie?
Bah, bien sûr, vous êtes Alain Juppé, allons.
Non, je suis l'ancien monde, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de l'ancien monde, hein, celui qu'on ne voulait plus. Ah non, trop vieux, Juppé président, c'est l'ancien monde. Caca, l'ancien monde, non. On veut un président moderne, un président qui réforme. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, sur les institutions, notre président moderne?
Bah, il revient un peu en arrière.
Ah d'accord, et pour les gilets jaunes, il fait quoi, le nouveau monde?
Bah, hein, il crée une programmation pluriannuelle de l'énergie avec concertation de terrain.
Voilà, donc il crée un espèce de comité Théodule, le nouveau monde. Hein, bravo, le nouveau monde. J'ai pris une leçon, croyez-moi, de modernisme. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Je retourne à mon cher dictionnaire.
Ah, le dictionnaire amoureux de Bordeaux.
Non, pas dictionnaire amoureux, non, le dictionnaire haineux de la France.
Oula,
avec la lettre A, comme allez tous vous faire foutre. Hein, B, comme bande de cons. Hein, C, comme cuire le cul, de l'expression allez tous vous faire cuire le cul.
Oui, non, mais c'est bon, Alain Juppé, on va pas faire tout l'alphabet. Merci beaucoup. À bientôt.
À votre service.
Oui. Gilets jaunes encore. Marion Maréchal Le Pen a manifesté samedi sur les Champs-Élysées.
Dites donc.
Quoi?
Non mais qu'est-ce qu'elle nous emmerde, celle-ci?
Bonjour Marine Le Pen.
Non mais pourquoi elle était sur les Champs-Élysées? Elle n'était pas censée, Marion, gérer une école du côté de Lyon, je sache.
Oui, elle a ouvert une école, l'ICEP, voilà. L'Institut supérieur des sciences économiques et politiques.
Oui, bon bah écoutez, qu'elle y retourne à son ICEP. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient emmerder, mes gilets jaunes, sur les Champs-Élysées? Vous voyez pas que cette saleté fait de la récupération, de la basse récupération politique. Donc je lui dis, retourne dans ton pays, Marion.
Oui, enfin, vous aussi, vous êtes solidaire des gilets jaunes, hein?
Non, écoutez.
Ah bon?
Je ne suis pas solidaire, madame. Je suis en passion pour les gilets jaunes.
Passion?
Et je le dis sur votre antenne. Permettez-moi cette déclaration. Chers gilets jaunes, je vous aime, les gilets jaunes.
Oui, bon alors, il y a un truc qu'on ne comprend pas bien. Hein. Vous êtes avec les gilets jaunes, mais les gilets jaunes qui étaient sur les Champs-Élysées étaient des anarchistes d'extrême gauche, tout ce que vous détestez en fait.
Oui, alors c'est vrai que c'est assez mal foutu, pour être très franc, cette histoire de gilets jaunes. D'un côté, je suis pour qu'il y ait le plus possible de gilets jaunes pour emmerder Macron, soyons clairs, et en même temps, ils ne sont pas de mon bord politique. Du coup, je propose solennellement un nouveau code couleur.
Ah, vous ne voulez plus de gilets jaunes ?
Si, alors on va faire différemment. Ah. Des gilets jaunes pâles pour les sympathisants de gauche, des gilets jaunes foncés.
Oh là là.
Si, écoutez, justement, terminé, s'il vous plaît, on est coupé, nous, Ensemble National, sur votre antenne. Et donc, des gilets jaunes foncés pour les sympathisants de droite, des gilets oranges pour les extrêmes gauches, hein, vu que jaune et rouge, ça fait orange.
Et pour Nicolas Dupont-Aignan, alors ?
Un gilet jaune devant et marron derrière.
Oh, c'est chic, ça.
Voilà,
oh là
oui,
là.
Écoutez, vous l'avez compris, je l'ai et autant que Marion, ce concondaignant.
Oh, allez, ah. Bon, allez, à bientôt, Marine Le Pen, on va vous laisser, je crois.
Clin d'œil à Coluche.
Oui, le truc jaune devant, ouais, marron derrière.
C'est une autre culture est très large, monsieur Lesgrasses. Dès qu'il s'agit de citer les grands auteurs, vous êtes là.
Merci, madame Le Pen.
J'en prie.
Tiens, Jean Lassalle nous a rejoint. Bonjour, monsieur Lassalle.
Ah, bonjour à tout le troupeau de l'Europe et à son fier berger, son pâtre grec, monsieur Agas.
Merci, monsieur.
Alors, on vous a vu à l'Assemblée avec un gilet jaune, dans les rues de Paris avec les gilets jaunes. Vous êtes à leur côté, donc.
Je le revendique, madame Leclerc. Je suis la voix des sans-voix, la dent des sans-dents, le nez des mal-nés. Oui, je suis avec les petites gens, vous l'avez compris.
Oui, oui, d'accord, mais ça tombe bien parce qu'on aimerait comprendre leurs revendications. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gilets jaunes ?
Mais que me disent-ils ? Ils me remercient d'abord. Ils me disent merci, Jeannot, d'être venu, d'avoir fait 996 kilomètres, pain de moins, à pied, depuis ton village pour nous rejoindre. Par contre, remettez pompe, Jeannot, c'est dégueulasse, on préfère presque les lacrymos. Mais au-delà de ces considérations factives, que me disent-ils ? Ils me disent on n'en peut plus de ce quotidien qui revient tous les jours. Jour après jour. Mais l'important, madame Leclerc, monsieur Régas, ce qui est important, c'est que ces petites gens ont autant d'idées que les politiques déconnectées de la réalité. J'ai ici, regardez, une boîte
à
idées riche de 1000 idées de nos concitoyens.
Ah.
Oui. C'est ça la vraie démocratie participative. Tiens, je tire au hasard une idée politique citoyenne d'un gilet jaune. Alors, je lis. Racheter des bières et des chips. Oh. Non, ça, c'est pas la meilleure.
Ah, non, c'est pas la meilleure. Non.
C'est pas la meilleure idée. Il y a visiblement des gilets jaunes dans la famille de Cabrol.
Oh, c'est encore lui qui prend.
Alors, Lolo. Une autre. Oh. Ouais.
Alors,
je lis. Merde à celui qui le lit. Bon. Non, on est là pour bosser, les gars. Alors, un peu. Reprenons-nous. Jean-Pierre, t'as la chance que c'est Julie, hein, que c'est pas une journaliste. Je passe pour quoi, moi. Alors.
Allez, encore un petit papier, là. Qu'est-ce qu'il y a comme.
Dissolution d'Emmanuel Macron. Bon, ça, c'est pas idiot, mais c'est interdit. Une autre.
Alors. Dissolution d'Emmanuel Macron.
Racheter des bières sans alcool. Bon, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Il faut retravailler le sujet. C'est
alors,
un sujet sans
soyons
fin.
Sérieux. Comment avez-vous accueilli le discours d'Emmanuel Macron hier sur la transition énergétique ?
Écoutez, nous n'avons pas besoin de lui. Dans les territoires, on se chauffe déjà avec des méthodes non polluantes.
Ah.
Vous savez que, à titre personnel, je ne veux pas faire mon malin, mais j'ai un radiateur à la maison, un radiateur à lisier de porc, dans ma chambre à coucher.
Ça donne envie. Ça donne envie.
Madame Lacosta a visité cette station. On met des excréments, c'est très simple, on met des excréments de cochon, on laisse fermenter, et on ouvre toutes les 24 heures un petit robinet qui diffuse le gaz dans une tuyauterie en boyau de porcelaine.
Oh là là là.
Ça permet de chauffer la pièce à 10, voire parfois on monte à des 12 degrés. Et en plus, ça respire le parfum de l'authentique, de l'humus du terroir, de la vraie vie, la ferme. Ça sent la terre, ça sent la truie mouillée.
Ah, excusez-moi, quand vous dites 10-12 degrés, ben, c'est pas très chaud ça, hein.
C'est pas chaud. Ben mais attendez, je dors avec 17 brebis en plus. Croyez-moi, certains soirs, c'est chaud, chaud, chaud.
Bon, écoutez, on veut surtout pas savoir. On va vous laisser. Merci, Jean Lassalle. Ça se complique à nouveau autour du testament de Johnny Hallyday. Bonjour, Laetitia.
Bonjour. Non. Oh, la fée, Julie, la fée. Bonjour, les amis. Vous avez vu tous ces pillages chez Dior ? Pillages chez Vuitton, chez Cartier, chez Hermès ?
Oui, bah, ce sont les casseurs. Hein.
Non, non, c'est moi.
Ah bon ?
Oui, avec les premiers droits d'auteur de Mamou, de Mon pays c'est le flouze.
Oui, Mon pays c'est le flouze.
J'ai tout plié.
Oh, bah, d'accord. Alors justement, David et Laura ont demandé un gel des avoirs pour vous asphyxier. Là, je cite l'article. Hein. C'est pas beau tout ça. Hein. Vous pouvez pas vous trouver un terrain d'entente avec eux, Laetitia ?
Mais moi, Julie, comme c'est bientôt Noël, je veux être dans l'esprit de Noël. Je suis prête à pardonner.
Ah, bah bravo. Vous êtes enfin prête à pardonner.
Non, ah, voilà.
Non, mais t'as pas compris. Je suis prête à pas redonner. À pas redonner. On demande et à pas redonner. Zéro chèque d'Aloualou, Potzop. Joyeux Noël, Laura et David.
J'ai trouvé ça.
Nicolas Canteloup dans Sur les flots, oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots. Vous vous souvenez de cette chanson?
Bah, oh mon bateau,
oh,
oh,
tu es le plus beau des bateaux.
Éric Moreno, voilà.
Voilà, Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, Nicolas Canteloup avec Julie, c'est tous les jours votre revue de presse. Au sommaire du tour de la question à partir de 9h avec vous, Wendy Bouchard.
Alors, cher ami, vous voyez tous les titres à la une. David Abicard vous en a parlé. Il a entendu, mais il n'a pas répondu. Dialogue de sourds, impossible dialogue. C'est ce qui ressort du bras de fer persistant entre le président et les gilets jaunes. On vous a posé la question sur Facebook Europe 1. Vous a-t-il convaincu Emmanuel Macron? Vous répondez non à 92%, 20 000 votes. On va poursuivre cette réflexion avec Robert Namias, Corinne Lepage aujourd'hui. Répondez-nous et expliquez-vous au 39-21. Alors qu'à 10h, on parlera de littérature jeunesse. C'est le salon Montreuil qui ouvre un salon pour la presse
et
la littérature des jeunes.
Les parents et les enfants.
Ah voilà, ce que lisent vos enfants et vos ados, on fait le tour de ce sujet et on pénètre dans un univers que peut-être vous ne connaissez peu.
Peppa Pig, Pikachu, enfin, y en a, la liste est longue.
Minilou, Fantomette, le Club des 5, tout ça. Hein.
À tout à l'heure, Wendy Bouchard. Il y aura l'essentiel de la matinale avant 9h, Céline Dacosta.
Oui, et la météo avec Laurent Cabrol, il est 8h57.
Tout de suite.
Europe 1.
La météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Laurent Cabrol, après avoir fait le potager, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le ciel aujourd'hui et éventuellement ce week-end?
Vous êtes très sévère. Dans le sud-ouest, comme sur le bassin méditerranéen. Non, dans le sud-ouest et le bassin méditerranéen, ce sera du soleil. Sur le Poitou-Charentes, le massif central de la région Rhône-Alpes, ce sera un temps gris, humide, mais sans pluie ou très peu de pluie. Nouvelle dégradation en revanche sur la Bretagne où le temps va s'agiter. Et puis si vous habitez les côtes de la Manche, le centre et la région parisienne, là c'est une tendance à l'accalmie en ce qui concerne des pluies en deuxième partie de journée. Enfin il pleuvra fréquemment sur la Bourgogne, les Vosges, l'Alsace, la Lorraine et le Nord. Quant aux températures, entre 9 et 15 degrés. Et d'un mot, le congé de fin de semaine sera humide. Voilà.
Merci et à plus tard sur Europe 1.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nikos Aliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. D'abord, cette information de dernière minute. Le Premier ministre Édouard Philippe le confirme à l'instant. La hausse de la taxe sur le carburant sera bien mise en œuvre le 1er janvier. Et concernant le SMIC, une revalorisation légale prévue le 1er janvier, mais pas de coup de pouce du gouvernement. Annonce faite chez nos confrères de BFM TV. Europe 1 cette semaine à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Aller à la rencontre des habitants, comprendre leurs besoins. À 7h15, nous étions dans un garage social qui loue pour une somme symbolique des voitures aux personnes dans le besoin. Cela leur permet d'aller travailler ou d'aller chercher un emploi. Car à Mourinx, la voiture et le travail sont indissociables, comme nous l'expliquait Nathanaël ce matin.
Le matin, moi, je me suis levé, puis j'ai voulu aller bosser. Elle a pu démarrer, et puis j'avais pas les moyens de payer des réparations, sachant que c'était hyper grave. Si une voiture qui est partie, elle est pas quoi. Puis j'ai pu rencontrer justement ce garage. Deux jours après, j'ai pu avoir le véhicule et reprendre mon boulot. Il est sûr et certain que j'aurais perdu mon travail. Quoi. Sans véhicule ici, la vie s'arrête. Quoi.
Le dialogue de sourds entre le président de la République et les Gilets jaunes. Les mesures annoncées hier par le chef de l'État n'ont pas suffi apparemment à apaiser les tensions. Et les dernières annonces du Premier ministre, Édouard Philippe, risquent de ne rien changer. Nouvel appel à la mobilisation samedi sur les Champs-Élysées. Un bras de fer qui pourrait bien s'installer pour longtemps. Comme nous le disait Jean-Michel Apathy à 7h40 sur notre antenne.
Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, il est un tournant dans l'histoire de la société française. C'est une prise de parole pleine d'amertume et de désespoir qui se libère et qui va imprimer sa marque pendant longtemps, longtemps, longtemps. C'est beaucoup plus important qu'un fait d'actualité anodin. On se souviendra peut-être des Gilets jaunes aujourd'hui, comme on se souvient de mai 68 il y a 50 ans, mais pour des raisons beaucoup plus sombres, hélas.
Et puis elle était à 7h45, ici, dans notre studio, artiste de référence admirée dans le monde entier, la cantatrice engagée Barbara Hendricks sort un album de blues, The Road to Freedom. Un peu de liberté ce matin sur Europe 1. D'oxygène pour bien commencer la journée. Merci à toutes les équipes de la matinale. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, Wendy Bouchard. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.
Et merci à vous, Nikos. Restez